Bonjour, 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 bonjour les gens, bonjour tout le monde, bienvenue, tout ça, tout ça. Attends, ouais, ça c'est bon. Ça va? Ça va bien ou ça va bien? Merci Oumaguma pour ton resub. Merci Arcos et Felton. Ça va les copains? Hop. Séance de questions d'actualité à 15h à l'Assemblée nationale. Attends, je vais me préparer ça sur le côté. Tac, tac, boum, boum. Didadidadoum. Ok, ça c'est Bouen. Hop, hop, ça c'est bon. Bienvenue, on est bien droitard ici. Bah t'as le droit d'être droitard si tu veux. Si ça t'amuse, y a pas de problème. Comment ça, la fin du gouv? Ça, on en parlait hier. On en parlait hier dans la conférence de... Pas la conférence de presse, pardon, dans la revue d'actu. La question se pose de savoir si Marine Le Pen va voter la censure du gouvernement Barnier dès le mois de décembre. C'est fou, ça. On verra. On verra au moment où le texte du budget reviendra à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a rejeté le texte en première lecture. Maintenant, c'est le Sénat qui bosse. Et quand il reviendra, le gouvernement engagera très probablement sa responsabilité à l'occasion d'un 49-3. 49-3 veut dire... 49-3 veut dire... motion de censure. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Un cadeau de Noël pour le peuple. Alors, c'est ton point de vue, t'as le droit. Je ne sais pas si l'absence de gouvernement et la crise politique et la crise institutionnelle est un cadeau de Noël pour qui que ce soit. D'autant qu'on sera très probablement en pleine crise agricole, puisque ça commence à monter, la colère agricole, là. Sur fond de négociation du traité de libre-échange avec le Mercosur. Pourquoi 49-3? Parce que le texte a été rejeté en première lecture. Le gouvernement de Michel Barnier ne va pas risquer un rejet du budget. Ça ne sert à rien, c'est absurde. Le gouvernement de Michel Barnier a d'ores et déjà esquivé des motions de censure au mois d'octobre dernier, septembre-octobre. Il sait qu'il peut bénéficier de l'abstention des macronistes de LR et du RN. Donc a priori, le gouvernement de Michel Barnier... va déclencher un 49-3. Mais un 49-3, c'est toujours à double tranchant. Enfin, il y a toujours un risque de vote d'une motion de censure. Le gouvernement s'expose à ça. Est-ce que ça sera un 49-3 sur le texte revenu du Sénat ou celui initial? Un mélange des deux. Un mélange des deux, je le suppose, puisque la majorité au Sénat est une majorité LR... avec des centristes également. C'est une couleur politique qui n'est pas très éloignée de celle du gouvernement de Michel Barnier, de facto. Donc, à mon avis, le gouvernement va proposer de respecter une bonne partie de ce qu'a conservé le Sénat dans sa mouture du budget. Donc, effectivement, il faudra qu'on regarde qu'est-ce que le gouvernement décide de garder de ce qu'il y a du Sénat, qu'est-ce qu'il rejette. En cas de censure, que restera-t-il des divers amendements adoptés au Sénat? On reconduira le budget de l'année 2024. En cas de censure, on sera sur une reconduction des crédits 2024. A priori. Pour le volet recettes. S'il y a une censure à cause du 49-3, est-ce qu'on peut revenir sur le budget ou c'est définitivement voté? Non, par définition, c'est l'inverse. C'est pas voté. 49.3, si la censure est votée, le texte est rejeté. Et le gouvernement avec. C'est ça le 49.3, c'est ça la bombe nucléaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ta question est la bonne. Ta question est la bonne, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après? Le Parlement... Alors, on rentrera dans une nouvelle crise politique, évidemment. Il faudra nommer un nouveau Premier ministre, susceptible d'avoir une majorité absolue, autant que possible, ou une majorité relative gouvernante, ou une majorité faible non censurable, ou non censurée plutôt. Donc ça va être complexe. Mais le nouveau gouvernement pourra proposer une nouvelle mouture d'un budget rectificatif dès le début de l'année. Est-ce que des gouvernements ont déjà été censurés par le passé ? Une fois en 1962. En 1962, le gouvernement a censuré le Parlement, l'Assemblée nationale a censuré le gouvernement. Le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Les Français sont allés voter aux élections législatives et ils ont plébiscité le général de Gaulle, qui donc a gagné sur toute la ligne. Et si nous déléguions la gouvernance à l'UE, pourquoi s'embarrasser de ce genre de choses? Alors, il n'y a pas de délégation de gouvernance, comme tu dis, au niveau de l'Union européenne. C'est des compétences partagées entre les pays membres. Ça n'a rien à voir. Et de toutes les manières, il faudrait quand même un budget. Donc, ça ne change rien. Est-ce que le retour de la démission de Macron sera sur la table de nouveau? Oui, c'est possible. Oui. Oui. Clairement, la pression va monter sur le président de la République de la part de ses opposants, notamment à gauche. Hein. Moi, je pense qu'une partie des responsables politiques de la gauche vont dire à Macron, maintenant, il faut démissionner. Là, c'est terminé. Le blocage, il est à l'Élysée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est plutôt à l'Assemblée qu'il est le blocage, mais... Je vous redis encore une fois que l'Élysée, dans tout ça, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une Assemblée nationale tripartitionnée. Si tu changes de président de la République et que t'as la même assemblée, t'as juste élu un mec qui a le même problème que le précédent. Hein. Comment on fait? Vous inquiétez pas, je vais faire des négociations. Bah vas-y, fallait tes négociations. Le précédent, il l'avait déjà fait. Hein. On a essayé, mais enfin vas-y, refais, on sait jamais. S'il y a une censure, le gouvernement peut-il faire comme cet été et avoir un gouvernement démissionnaire pendant des mois? Ouais, bien sûr. Mais c'est probablement ce qui va se passer, parce que... Je vois pas très bien comment on va réussir à solutionner le problème. Ça va pas prendre 2 jours. Hein. Ça va prendre plus de temps que ça. Le Pen a-t-elle intérêt à ce que Macron parte tout de suite où le verdict pourrait tomber ? Dans trop peu de temps pour lui laisser faire appel. Peut-être que ça fera partie de la stratégie de l'Élysée, effectivement, en fonction de la condamnation à une inéligibilité ou pas. Pour l'histoire, Macron n'abandonnera jamais le pouvoir. Ouais. On disait ça de Hollande aussi, je me souviens. Ouais. C'est ce qu'on dit. Puis après, on est surpris. Y a-t-il un monde où on n'a plus de Premier ministre avant les 1 an de la dissolution de 2025? Bah oui, c'est ce que justement on est en train d'envisager collectivement. On est en train de se poser la question effectivement de la capacité de Michel Barnier à rester Premier ministre au mois de décembre prochain si d'aventure la motion de censure était votée par les députés du RN. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on a fait une revue d'actu, on a lu un article du Monde, une analyse qui dit que le RN est assez mécontent du gouvernement Michel Barnier qui ne respecte pas les lignes rouges qui avaient été placées par Marine Le Pen. Donc il est possible que Marine Le Pen en ira la casquette d'être humiliée par Barnier et décide de le censurer. Merci Aspiflet pour ton abonnement. Merci Smogogo également et Oloroukui. Oulourou... Hein? Elorouki. Arriverais-tu à résumer la situation politique en France pour quelqu'un qui ne suit pas? Ça peut pas se faire en une minute, hein, ça se résume pas. C'est comme résumer une série à la 7e saison, 4e épisode. Tu peux me faire un point un peu, on en est où? Comment te dire? Compliqué. Le président de la République s'appelle Emmanuel Macron, le Premier ministre s'appelle Michel Barnier, l'Assemblée nationale est tripartitionnée entre trois blocs politiques, un bloc d'extrême droite qui n'a pas les moyens de gouverner parce qu'il n'a pas d'alliés, un bloc de gauche qui n'a pas les moyens de gouverner parce qu'il n'est pas assez nombreux, et un bloc central qui a les moyens précaires de gouverner que lui accorde une Marine Le Pen qui accepte de ne pas le censurer. Voilà. En l'état actuel, est-ce que si M. Barnier quitte ses fonctions, quelqu'un peut arriver à trouver un consensus stable jusqu'à l'été? La question que tu poses est la bonne. La question que tu poses est la bonne. Quelle est l'alternative à Michel Barnier? Y en a-t-il une? Est-ce que c'est viable? T'as une solution, c'est ce qu'on appelle les gouvernements techniques. Les gouvernements techniques. En gros, un gouvernement technique, tu mets une équipe de technocrates en disant que de toute façon, c'est un gouvernement qui va pas faire grand-chose à part expédier les affaires courantes, qui a très peu de moyens politiques de gouverner. C'est une espèce de situation provisoire, situation d'attente. En attendant la prochaine dissolution en juin. Le problème, c'est que, enfin bon, c'est bien gentil, gouvernement de provisoire, gouvernement de technocrate, mais un gouvernement, il a quand même besoin de répondre à des questions qui sont posées par l'actualité. Je veux dire, si t'as la moitié des agriculteurs du pays qui sont dans la rue, ton gouvernement de technocrate, il doit prendre des décisions, quelles qu'elles soient, hein. Favorables, défavorables, négociations, etc. Donc voilà, le Mercosur, il faut apporter une réponse. Le Conseil des ministres de l'Union européenne, il se réunit, tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est expédier les affaires courantes. Alors ok, tu ne prends pas d'initiative politique, d'accord, donc tu n'engages pas de grandes réformes de l'immigration, de la sécurité, du code du travail, de l'économie, de l'éducation, l'hôpital, etc. Ok, d'accord, tu ne te lances pas dans des grandes ambitions de transformation, quelles qu'elles soient, hein, droite, gauche, diagonale, on s'en fout. Mais tu ne peux pas ne rien dire et ne rien faire sur des sujets brûlants. Pourquoi ça ne serait pas à l'Assemblée de répondre à ces questions? Parce qu'elle en est incapable. On a une Assemblée ingouvernable, on a une Assemblée instable, on a une Assemblée tripolarisée, où il y a des questions très différentes, ou des réponses très différentes qui sont apportées à toutes ces questions en fonction des camps politiques. Si le gouvernement est censuré, qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement, que font les parlementaires pendant ce temps? Les parlementaires, ils continuent à bosser. Il y a toujours un gouvernement dans ce pays. que ce soit un gouvernement effectif, que ce soit un gouvernement démissionnaire ou un gouvernement technique, provisoire, d'alliance, etc. Machin. Les parlementaires continuent à bosser, hein. Il y a toujours des projets de loi qui sont amendés, etc. S'il y a censure, qu'est-ce qui empêcherait le président de la République de désigner le même gouvernement? C'est quoi les règles qui régissent la censure? Non, en fait, il faut que vous compreniez que la censure, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas juridique, elle est politique. Un gouvernement censuré n'a pas les moyens de gouverner le pays. Ça veut dire quoi avoir les moyens de gouverner le pays? Gouverner, c'est être capable de prendre des décisions. C'est pour ça que le gouvernement a besoin d'une assise parlementaire, parce que c'est le Parlement qui prend les décisions. C'est comme si tu me disais, si je suis licencié, qu'est-ce qui m'empêche de rester à mon poste? Bah tout. Tout. En fait, t'as pas les moyens. Professionnellement, tu peux plus travailler. On t'a retiré la confiance, l'entreprise t'a licencié, tu participes plus aux réunions, t'es plus, tu, tu, il faut, faut partir là maintenant, monsieur. Ça devient gênant, en fait. Putain, vous l'entendez le mec qui fait des travaux là? Parce que moi je l'entends à peine, mais si vous, vous l'entendez. Ah putain la vache. Je suis content parce que vous partagez mon mal de crâne. Je suis content de partager avec vous ces moments intimes des travaux dans mon immeuble. Il y a eu des travaux pendant 6 mois dans mon immeuble, je compatis. Ouais, non, mais moi, au démarrage, j'habite dans un grand immeuble avec plein d'appartements autour de moi, donc c'est pas absurde qu'il y ait des travaux, je le comprends tout à fait, c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, depuis la rentrée de septembre, il y a une épidémie. Vraiment. Dans l'ascenseur, un jour, il y avait 3 papiers différents qui disaient « Bonjour, j'entreprends des travaux au 5e étage, moi c'est au 9e, moi c'est au 2e. » Putain, vous êtes concerté ou quoi? Et dit voilà, donc je sais pas, il y a une épidémie de travaux là, dans mon immeuble en tout cas. Admettons que Barnier est censuré et que Macron démissionne. Combien de temps ça prendrait pour organiser une nouvelle élection présidentielle? Est-ce qu'il y a un monde où le nouveau président met en place un gouvernement de technocrates pour gérer les affaires courantes en attendant juin pour dissoudre à nouveau l'Assemblée? Oui, il suffit de regarder les décès de démission ou décès de président de la République, que ce soit De Gaulle ou Pompidou. Après leur départ de l'Élysée, l'élection présidentielle a eu lieu de mémoire 1 mois et demi à 2 mois plus tard. C'est très rapide. Rappelez-vous juin dernier. Rappelez-vous juin dernier, quand Emmanuel Macron a déclenché la dissolution. C'était le soir de l'élection européenne. À 20h25, Macron prend la parole et dit dissolution de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous. Comment tous nos cerveaux ont switché en mode élection législative. Tout le pays. Les connards comme moi qui s'intéressent à la politique, on est tous passés dans un autre mode, en mode OK, ça part, dissolution, boum, OK, élection législative, qu'est-ce qui se passe? Nouveau Front Populaire par-ci, Alliance par-là, Éric Ciotti, la crise, tac-tac, boum, boum, etc. Je vous rappelle qu'un mois plus tard, on avait des élections législatives. Ça va vite! Enfin, vraiment, ça va très vite. Si Macron présente sa démission, pareil, on va tous rentrer en mode présidentiel. Bam! Candidat. Candidat, candidat, pas candidat, etc. Personne n'a le temps d'organiser de primaire. Tout va aller très vite. Donc voilà. En plus, ils sont tous prêts. Pour l'instant, le seul qui est prêt, c'est Édouard Philippe, hein. C'est le seul, à ma connaissance, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Pour les 500 parrainages, ça va aller très vite. Les 500 parrainages, il va falloir les récolter très vite, hein. Alors Marine Le Pen, est-ce qu'elle est prête? Il y a quand même une condamnation en justice qui plane au-dessus de sa tête, donc c'est pas facile. Mais a priori, vous avez raison, Marine Le Pen a vocation, disons, à être présidente, à être candidate à l'élection présidentielle. Ça a du sens. Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé dans une interview il y a 48 heures, qu'effectivement, si jamais les choses se précipitaient, il aurait vocation à être candidat également. Bon, ok, donc ça nous fait déjà les trois arriver en tête à la présidente élection à la précédente élection présidentielle. Mélenchon, il devait pas se casser, bordel. Ça n'a jamais été clair, ça, hein. Mélenchon dit à qui veut l'entendre qu'il veut être remplacé pour la présidentielle de 2027, mais dans la même phrase, il explique que si l'élection présidentielle a lieu là, tout de suite, bientôt, il serait candidat. C'est un peu le candidat de Schrödinger, quoi. Ça dépend à quel moment tu lui poses la question. Si Macron arrive au terme de son quinquennat, est-ce qu'il peut se représenter? Il est interdit de faire plus de deux mandats consécutifs de président de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit de faire plus de deux mandats tout court. Si Emmanuel Macron arrive au terme de son mandat en l'an 2027, il a l'interdiction par la Constitution de se présenter à l'élection présidentielle. En revanche, il peut se présenter en 2032. Est-ce que Mélenchon n'est pas la personne qui empêche le NFP d'accéder à la présidence? Attention, le NFP n'est pas une alliance présidentielle. Le NFP est une alliance législative. Pour que le NFP se transforme en coalition de partis pour l'élection présidentielle, ça demande un travail de la part des partis. Un certain nombre de responsables politiques du NFP ont déclaré que selon eux, il serait souhaitable que le NFP ait un candidat commun. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile. On sait que la figure de Jean-Luc Mélenchon est bloquante pour certains de ses partenaires du NFP, pour ne pas dire pour tous. On sait que la méthode de la primaire n'a pas la faveur de la France insoumise, jusqu'à présent, et j'insiste sur le jusqu'à présent. De toutes les manières, il n'y a pas de primaire organisable si jamais il y a une démission du président de la République, hein, on n'a pas le temps. Hein. Enfin, franchement. Quand t'as 2 mois pour faire campagne. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut se représenter? il le peut, il ne le souhaite pas. Nicolas Sarkozy n'est plus dans le bain politique. Voilà, il a accepté de quitter la vie politique française lorsqu'il a perdu la primaire de 2017. Il était revenu, hein, je vous rappelle qu'il avait repris la direction du parti, hein, c'est quand même pas rien. On pourrait tout regrouper le NFP dans un parti et appeler ça le PS. C'est ça. Le MGF, le mouvement de la gauche française. Voilà. Je propose. On appelle ça le MGF, qui regroupe tous les partis politiques existants dans un grand mouvement. Et qui a un fonctionnement démocratique, donc on vote sur des motions. Il y a la motion insoumise, la motion socialiste, la motion écolo, la motion communiste. On fait des congrès tous les 4 ans. On fait des primaires pour les présidentielles et tout. Non, monsieur. La droite modérée a besoin d'un renouveau, limite une révolution, sinon c'est terminé. Je suis pas sûr de ça, parce que je suis d'accord avec toi, hein, la droite modérée, moi ça fait 7 ans que je dis que le problème des Républicains, c'est qu'ils n'ont pas d'espace politique. Ils sont écrasés entre un macronisme qui se droitise au fur et à mesure du temps dans son exercice, et un Rassemblement national qui se crédibilise au fur et à mesure que les années avancent. LR pardon, est pris dans cet étau-là, et il y a un problème d'espace politique. Lui qui a, à une époque, été un parti hégémonique de la droite française, de la droite et du centre, en plus, il est étouffé. Si tu demandes aux grands pontes des Républicains, ils t'expliqueront que, en réalité, le macronisme va finir par s'effondrer comme un soufflet, et les Républicains vont pouvoir renaître comme étant l'offre légitime de la droite française. Et ils estiment également que Marine Le Pen est un ballon de baudruche du populisme, de la colère, mais qui fondamentalement, elle aussi a vocation à retourner dans les limbes de la minorité politique. Donc c'est toujours... Alors, moi, je me méfie toujours de ces analyses-là, parce qu'elles peuvent effectivement être censées être intelligentes, mais elles sont... Comment dire ? C'est vraiment la théorie du phénix, quoi. L'idée que finalement, l'UMP va renaître. Voilà. L'UMP, pour ceux qui n'ont pas connu ou qui étaient trop jeunes, l'UMP, c'était plus de 300 députés, plus de 320 députés, je crois, unis, cohérents, issus pour partie du RPR et pour partie du DF. Voilà. C'était la droite dans tout ce qu'elle avait de glorieux et de successful avec l'élection de Nicolas Sarkozy et le premier quinquennat avec François Fillon comme Premier ministre. Et j'ai l'impression qu'il y a des responsables de la droite française qui ont un espèce de fantasme du retour à la grandeur passée. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez certains au Parti Socialiste. Notamment les soutiens de François Hollande, etc. Bah, ils rêvent un peu justement au retour du hollandisme dans ce que le Parti Socialiste avait de glorieux à ce moment-là. Le Parti Socialiste était le parti hégémonique de la gauche française. C'était gigantesque, le Parti Socialiste. Je vous rappelle toujours que dans le même parti politique, on avait Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls pendant plus de 20 ans, dans le même parti. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi des responsables socialistes qui fantasment un peu le retour à ces années-là, Alors que depuis ces années-là, bah, les choses ont changé. Il y a eu la donnée Macron déjà, c'est pas rien, pardon. Emmanuel Macron qui a quand même réussi à bazarder le paysage politique français en très peu de temps. Il y a le populisme de gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui a montré un succès certain dans les élections présidentielles, pas vraiment dans les autres élections, sauf Alliance, et Marine Le Pen et sa stratégie des diabolisations. C'est quand même des données nouvelles, donc tu peux pas fantasmer le retour à une bonne vieille politique française dans laquelle tu as un gros parti de gauche, un gros parti de droite. À quel moment LFI, c'est du populisme? Alors, pour dire que la France insoumise relève du populisme de gauche, je m'appuie sur un penseur politique français qui a eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. C'est un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous connaissez, qui a très longtemps, pendant les années 2010, revendiqué la notion de populisme de gauche, notamment en s'appuyant sur les travaux de Chantal Mouffe, qui est une chercheuse française qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pour un populisme de gauche ». Et Jean-Luc Mélenchon s'est revendiqué du populisme pendant plusieurs années. Voilà. Si vous avez des problèmes avec ça, je vous invite à écrire un courrier à Jean-Luc Mélenchon qui est à lui expliquer pourquoi il a tort. Il sera ravi de vous lire. Pour moi, c'est surtout que ces vieux partis ne correspondent plus à la société où tout va très vite. Après, il pouvait y avoir de l'agilité dans ces partis, hein. Il pouvait y avoir des changements, des ruptures, etc., bien sûr. Attendez, il y a Samuel Etienne qui m'appelle. Bougez pas, hein. Excusez-moi, pardon. Ça ne se fait pas de décrocher son téléphone quand on stream, sauf quand c'est sa maman ou quand c'est Samuel Etienne. C'est la règle, hein. C'est écrit dans les conditions d'utilisation de Twitch. Il vous embrasse. Il vous embrasse, il pense à vous. Dilé-dilé-loum. Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. On est d'accord qu'avec le nombre de personnes qu'on est, il y a forcément une personne qui sait lire sur les lèvres. Non, mais... Mélenchon, populisme, tout ça. Oui, bah ça c'est un peu un grand classique. Bon, après ça a évolué, ça a dépendu, hein, parce que vous savez que la France insoumise est une matière organique, un mouvement gazeux, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon, donc qui a changé de perspective à plusieurs reprises sur plusieurs sujets. Au demeurant, c'est normal en 15 ans, pour n'importe quel parti politique. Oui, ils se sont revendiqués longtemps du populisme, le populisme étant défendu comme une forme de stratégie qui vise à opposer le peuple à une élite. Avec le risque évidemment d'homogénéiser l'idée de ce que c'est que le peuple et de ce que c'est que l'élite. Mais c'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup de démocraties, occidentales. Ça se base notamment sur les mouvements, les mouvements alternatifs du mi-temps des années 2010, ou plutôt de la fin des années 2000 en réalité, Occupy Wall Street par exemple. Les mouvements Occupy, les mouvements en Espagne, Podemos, etc. Avec cette vision mouvementiste des choses. Gilets jaunes aussi, d'un certain point de vue, en France en 2018. Et donc voilà, donc la France insoumise est un parti politique qui a été fondé autour de cette doctrine-là, qui l'a revendiqué pendant un temps, qui le revendique un peu moins maintenant. Mais c'est un truc qu'on retrouve donc dans des mouvements de gauche partout dans beaucoup de démocraties. C'est aussi évidemment une doctrine politique qu'on retrouve. Alors c'est pour ça que c'est dur de dire que c'est une doctrine, parce que le populisme, c'est plus une posture et une stratégie qu'une structuration de pensée avec une doctrine politique, avec une idéologie, pour reprendre ce mot. Vous le retrouvez chez Donald Trump, vous le retrouvez chez Xavier Milei, vous le retrouvez dans une partie de l'extrême droite en Europe, chez Marine Le Pen aussi. Donc voilà quoi. Est-ce qu'il y a d'autres partis politiques en France avec peu de démocratie interne comme LFI? Bah oui, t'as Renaissance par exemple, t'as le Rassemblement National. Et je fais exprès de prendre ces trois exemples-là parce que la France Insoumise, Renaissance, La République En Marche et le RN sont trois partis qui ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle un leader charismatique. Ce sont des partis qui ont été fondés en partie autour de leur leader. Leur leader étant évidemment le candidat à l'élection présidentielle. Y a-t-il un congrès LR prochainement? À ma connaissance, les responsables des Républicains ont décidé de renvoyer à plus tard les discussions sur l'avenir du parti. Suite à la crise de l'été dernier, vous vous en souvenez, Éric Ciotti, président en exercice des Républicains, qui annonce une alliance avec Marine Le Pen, fronde de l'ensemble du bureau politique, non pas l'ensemble, l'écrasante majorité du bureau politique contre cette décision, bisbille, engueulade, manche retroussée, etc. Serrurier. Voilà. Compte tenu de la situation politique, les Républicains qui aujourd'hui participent au gouvernement ont décidé qu'ils discuteraient plus tard. Est-ce que tu penses que multiplier sa présence médiatique comme le fait de Villepin est anodin ou pas? On a l'impression qu'il revient. Non, non. De Villepin, c'est comme Alain Krivine. Hein. Pas Alain Krivine, pardon. Merde. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui parle tout le temps. Enfin, bref, il y a des gens qui sont invités sur les plateaux télé pour faire des analyses. Hubert Védrine, putain. Hubert Védrine. J'ai confondu Hubert Védrine et Alain Krivine. C'est quand même dur, ça. Hein. Il est 14h45, on est mardi. Je me fais des nœuds au cerveau. De Villepin parle davantage de géopolitique. Bah Hubert Védrine aussi, hein. Donc non, 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 c'est pas parce que vous voyez un ancien politique à la télé qu'il a forcément envie de revenir dans le jeu, etc. Pas du tout. On a même vu Debré s'exprimer. Ils ont sorti Debré et B. Est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron serait capable de démissionner et donc d'organiser de nouvelles élections? Bah on en parlait, hein. On en parlait effectivement de l'hypothèse qui commence à se faire jour de plus en plus, selon laquelle Michel Barnier serait censuré au mois de décembre prochain. Ça va commencer à arriver vite, hein, c'est dans les 20 jours qui viennent. Censure de Michel Barnier qui pourrait éventuellement et hypothétiquement déclencher une démission du président de la République. Ce qui ne réglerait pas grand-chose, mais ce qui aurait le mérite de rendre la parole aux Français avant les élections législatives de juin prochain. En fait, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas. La démission, hein, je parle de la démission, la censure, on verra. La démission, j'y crois pas parce que je me dis qu'Emmanuel Macron. C'est pas parce qu'il y a une fronde à l'Assemblée, c'est pas parce que l'Assemblée nationale est un foutu de se mettre d'accord qu'Emmanuel Macron doit en assumer les conséquences sur lui. Dis, mais en fait, c'est le problème de l'Assemblée, pas le problème du président de la République. Si par contre Emmanuel Macron organise des élections législatives parce qu'il y est forcé par une censure l'été prochain et qu'à nouveau cette élection législative donne une défaite de son camp. Là, Emmanuel Macron peut vouloir, dans un geste très gaullien, en tirer les conséquences sur lui-même et sur sa légitimité. Donc là, tu as une logique, effectivement, à la démission. S'il démissionne, ça compte comme un quinquennat où il peut se représenter. Non, 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 il peut pas. Non, non, pardon, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir, mais oui, non, non. Non, bien sûr que non. Il y a une légende qui raconte que si le président de la République démissionne, ça compte pas comme un quinquennat complet, donc il peut se représenter à l'élection présidentielle. C'est. Je veux dire, tous les professeurs de droit public qui ont été consultés sur ce sujet ont tous dit que non, il faudrait vraiment que le Conseil constitutionnel prenne une décision extrêmement étrange d'accepter cette candidature. Le problème de cette légende, c'est qu'elle n'a pas été écrite par n'importe qui. Le premier à en avoir parlé, l'un des premiers à en avoir parlé, c'est Jean-Jacques Urvoas, qui est un ancien ministre de la Justice. Donc forcément, quand c'est un ancien ministre de la Justice, qui est quand même pas le dernier des cons, qui sait un peu de quoi il parle, et qui fait cette hypothèse, je crois que c'était sur son blog, ça a commencé un peu à jaser. Où les gens se sont dit, ah, peut-être Macron pourrait faire trois mandats, parce que machin, le tout en s'appuyant sur une jurisprudence du Conseil d'État concernant le nombre de mandats consécutifs possibles pour un mandat de président de la Polynésie, je crois, je sais plus, enfin bref. C'est voilà, en gros, c'est prendre une interprétation extensive du Conseil d'État et la calquer sur le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on appelle du droit spéculatif. Le droit spéculatif, c'est sympa, mais bon. C'est spéculatif. Voilà. C'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qui se passe si. Alors c'est important de faire de la spéculation quand on fait du droit constitutionnel notamment, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe si le président machin, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement n'est pas de la même couleur que le président, qu'est-ce qui se passe si l'Assemblée est divisée, qu'est-ce qui se passe si. Voilà, c'est des questions intéressantes, hein. Mais en l'état actuel du droit positif, comme on dit. Pas grand-chose n'implique la possibilité pour un président de la République de se présenter une troisième fois sous prétexte qu'il a démissionné, quoi. Zemmour, option crédible pour l'extrême droite en 2027 si Marine Le Pen est condamnée. Non. Non. Éric Zemmour a construit son aventure politique en opposition au RN. Si la présidente du RN ne peut pas se présenter à la présidentielle, ils vont envoyer Bardella. Ils ne vont pas envoyer Zemmour. Zemmour est un adversaire. Non, non, ils ont des options. Hein, ils ont des options. Que penses-tu de l'éventualité d'une grâce présidentielle pour Marine Le Pen? Alors, j'y crois pas un quart de seconde pour une raison très simple, c'est qu'une grâce présidentielle, de mémoire, hein, si je me souviens bien de mes cours, une grâce présidentielle ne peut intervenir que sur une condamnation définitive. Définitive. C'est-à-dire une condamnation qui a épuisé toutes les voies de recours. Première instance, appel, cassation, Cour européenne des droits de l'homme, sans doute, je sais pas. Donc non. C'est quoi une grâce présidentielle? C'est un peu tombé en désuétude ces dernières années, la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est un pouvoir propre du président de la République qui a la possibilité de gracier partiellement ou totalement certaines peines, certains condamnés. Ça remonte évidemment à l'époque de la peine de mort, hein, comme ça existe aujourd'hui aux États-Unis avec la possibilité pour le gouverneur d'un État qui applique la peine de mort de gracier un condamné et de commuer sa peine en prison, en réclusion criminelle à perpétuité. Il y avait une époque, que vous n'avez peut-être pas connue, où il y avait une espèce de tradition un peu chelou en France, où le 14 juillet, il y avait une grâce présidentielle sur les courtes peines de prison. Donc il y avait des prisonniers qui sortaient de prison un peu plus rapidement que prévu. Alors évidemment, ça ne s'appliquait pas aux mecs qui avaient pris 10 ans de tôle. Ils ne sortaient pas au bout d'un an, hein, ça ne marchait pas comme ça, mais les mecs étaient en courte peine pour des délits, ils sortaient de prison, quoi. Il y avait une grâce également sur les amendes, les PV. Le nouveau président aussi. Oui, tu as raison, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Le nouveau président élu, un des premiers trucs qu'il faisait, c'est qu'il décidait de, pareil, d'un espèce de vague comme ça, de grâce. Ça s'est arrêté avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007 sur une campagne basée sur la lutte contre l'insécurité avec un principe de tolérance zéro. Voilà, c'était le mantra, le slogan de campagne même de Nicolas Sarkozy, la tolérance zéro contre les délinquants. Et Nicolas Sarkozy a appliqué à lui-même cette campagne, ce principe de campagne, en disant, bah voilà, écoutez, j'ai été élu président, je vais pas gracier des gens, en fait. Les gens, ils ont reçu des amendes, ils ont reçu des condamnations par la justice, je vais pas passer outre, etc., machin. Quand François Hollande a été élu président en 2012, il n'a pas ressuscité la tradition. Je me rappelle de ceux qui gardaient leur PV jusqu'à l'annulation du président. Mais oui, on s'en souvient. Mon père, il faisait ça, il disait « Oh, j'ai reçu une amende. Ouais, mais c'est bientôt le 14 juillet. » Enfin, vraiment, les Français disaient ça. C'est vrai que c'était un peu ridicule. Enfin, faut l'admettre. C'est sans aller jusqu'à la tolérance zéro de Nicolas Sarkozy, faut reconnaître que c'était un peu absurde comme système. Enfin, je veux dire, on a une police qui dresse des amendes, on a une justice qui condamne, et on a un président qui peut, hop, 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 petit coup de baguette magique, un truc un peu démagogue, youp la boum, vous allez payer moins d'amendes, quoi. Bon, Donc voilà, donc Nicolas Sarkozy a aboli cette tradition. François Hollande ne l'a pas reprise à son compte quand il a été élu, et ça s'est arrêté comme ça. Voilà. François Hollande a quand même utilisé son droit de grâce présidentielle pour, comment elle s'appelait, cette femme qui a été condamnée pour le meurtre de son mari, qui était Jacqueline Sauvage. Merci beaucoup. Jacqueline Sauvage. Voilà, Jacqueline Sauvage est une femme, si vous avez oublié l'histoire. C'est une histoire terrible d'une femme qui a été en procès parce qu'elle avait tué son mari. Mais elle avait tué son mari après plus de 30 ans, je crois, de violences conjugales quotidiennes de la part de son mari. Donc on était dans une situation absolument atroce où cette femme était sous l'emprise et sous la violence des coups et des mots de son mari. Et sur elle et sur leurs enfants, oui, leurs enfants aussi. Et voilà, donc Jacqueline Sauvage a été condamnée à une peine de prison parce qu'elle a tué un homme. Donc il y a un moment, la cour d'assises a été contrainte de reconnaître que on est quand même un peu obligé d'appliquer le code pénal, quoi. Mais le président de la République, après avoir consulté les avocats de Jacqueline Sauvage, a décidé d'appliquer son droit de grâce présidentielle, compte tenu également de l'État. La légitime défense. Non, la légitime défense ne s'appliquait pas. Non, elle n'était pas en état de légitime défense quand elle a tué son mari. Elle a littéralement abattu son mari, si je puis dire. Mais voilà, c'était la prise en compte d'un contexte, déjà celui de l'affaire, mais aussi d'un contexte dans la société. Bah, c'était voilà, c'est le féminisme, la question des violences sexuelles et sexistes. La volonté de François Hollande, président de la République, d'avoir une politique féministe, une politique qui tient compte voilà, des mutations de la société et des combats féministes de plus en plus. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, François Hollande a commué la peine de Jacqueline Sauvage. Il a limité considérablement sa peine de prison. Donc voilà pour le droit de grâce présidentielle. Je n'ai pas d'informations récente sur le droit de grâce en France. Je ne sais pas s'il a été réutilisé depuis. Ça existe encore, le crime passionnel? Le crime passionnel, ça n'a jamais existé en droit, et c'est une expression qui a pu être utilisée dans la fiction et dans le journalisme, qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Le crime passionnel, c'était une euphémisation du féminicide. Enfin, clairement, les hommes qui tuent leurs femmes à coups de poing, et on écrit dans les journaux, ah, c'est un crime passionnel, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est terrible. Non. Non, c'est juste un homme a tué une femme. Enfin, c'est un féminicide, c'est un meurtre. Il y a pas de... Voilà. Non, on a arrêté d'utiliser ce genre de vocable euphémisant pour désigner des phénomènes d'une violence absolue. Pourquoi le procès du RN a lieu au tribunal correctionnel et pas au tribunal administratif? Parce que ce qui est reproché à Marine Le Pen, ce sont des comportements délictuels. Le tribunal correctionnel, je vous rappelle que c'est le tribunal qui juge les délits. Genre le vol, genre le détournement de fonds publics, etc. C'est du correctionnel, ce sont des délits. Elle encourt des peines de prison. Tribunal administratif s'occupe pas de ça. Tribunal administratif, il s'occupe de vos relations avec l'administration. Si tu as un permis de construire qui est refusé et que tu n'es pas content, tu peux aller devant un tribunal administratif. Tu vas pas aller devant une cour correctionnelle. Un tribunal correctionnel, pardon. Le crime passionnel avant, c'était une circonstance atténuante. Maintenant, je suis content que ce soit une circonstance aggravante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais vraiment, faut arrêter d'utiliser cette expression, hein. C'est terminé, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Les années 90 et 2000 sont terminées. On n'utilise plus la notion de crime passionnel. Ça n'existe plus. On arrête. On a de meilleurs instruments, on a de meilleurs mots maintenant pour désigner des réalités sociales, etc. Donc voilà, on va essayer de s'en tenir aux travaux les plus récents. Maintenant, c'est la faute aux jeux vidéo et à TikTok, exactement. Allez, chers amis, la séance des questions d'actualité au gouvernement va commencer. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. La présidente Yael Braun-Pivet monte au perchoir pour présider la séance.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Merci Yael, la séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste.
On commence avec les socialistes et Stéphane Delautrette pour la première question. Vas-y mon Stéphane, on t'écoute.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui s'ouvre le 106e congrès des maires de France et je tiens tout d'abord à saluer nos 500 000 maires, adjoints et conseillers municipaux.
Alors,
500 000 élus, c'est un demi-million de nos concitoyens qui s'engagent au quotidien, en toutes circonstances, parfois à toute heure du jour et de la nuit.
Sujet très important, les collectivités locales avec les coupes budgétaires.
Ne méritent-ils pas d'être soutenus ? Et pourtant, aujourd'hui, ils sont en colère. Le ton monte. Depuis des semaines, ils vous interpellent, monsieur le Premier ministre. Fermeture de mairie, manifestation devant les préfectures. Et il y a à peine une heure, les maires étaient plusieurs milliers à protester dans l'enceinte de leur propre congrès. Que demandent-ils, monsieur le Premier ministre ? Pouvoir agir, qu'on leur garantisse les moyens de faire ce pourquoi ils ont été élus. Or, c'est bien ce dont vous voulez les priver en leur faisant les poches. 5 milliards d'euros annoncés, 10 milliards en réalité, c'est un véritable hold-up. Pendant les débats budgétaires, nous avons trouvé sur ces bancs des majorités pour, au contraire, soutenir nos collectivités. Le rejet final du projet de loi de finances ne saurait balayer cet espoir alors que les élus sont dans l'attente. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé dans votre discours de politique générale à bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Agir en responsabilité, c'est bien ce que demandent les élus locaux. Mais pour nouer un contrat, encore faut-il du dialogue et de la confiance. Vous vous exprimerez jeudi au congrès des maires. Entendez-vous répondre à leur colère et reprendre les mesures qui, dans cette Assemblée, ont fait consensus ?
Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation.
Merci Madame la Présidente.
Que va répondre la ministre sur cette interpellation sur les moyens des maires ?
Monsieur le Président.
En ce moment, la grogne monte dans les mairies.
Monsieur le Président, comme vous, évidemment, je pense que dans notre Assemblée, tout le monde rendra hommage aux 500 000 élus, qu'ils soient évidemment conseillers régionaux, départementaux ou membres du bloc local. Pour autant, vous le savez, nous travaillons régulièrement avec l'ensemble de ces élus, qu'il s'agisse de l'Association des maires, qu'il s'agisse des maires ruraux. Et j'étais encore ce matin à leur congrès. Alors effectivement, un certain nombre d'entre eux ont souhaité, vous le venez de le dire, mettre leur écharpe et mettre parallèlement à l'écharpe une berne, un drapeau noir pour appeler l'attention qui est celle du gouvernement. Vous le savez, depuis le 21 septembre, date de nomination du gouvernement de Michel Barnier, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus parce que l'enjeu, vous le connaissez. L'enjeu, c'était un budget qui a été réalisé dans les conditions que vous connaissez. Ce budget a évidemment parmi ses nombreuses contraintes celle de répondre au déficit de notre pays et de ramener le déficit public à 5%. À partir de là, la réflexion qui a été menée est une réflexion qui a consisté à regarder quelles étaient les marges d'économie possibles. Et nous avons travaillé avec les collectivités et d'ores et déjà entre la version initiale et ce qui est proposé aujourd'hui. Vous avez entendu le Premier ministre vendredi devant les départements. Nous avons, avec les maires, évoqué des sujets très concrets sur le FCTVA, pour prendre un premier exemple, sur la capacité pour les maires à retrouver du pouvoir d'agir, sur le statut des maires. Parce que quand on parle de grogne et d'interrogation des maires, il y a leur rôle au quotidien près de nos concitoyens. Et je parle notamment du sujet des violences. Pas plus tard que jeudi...
La ministre qui fait le point sur la situation tendue des maires, en assumant le fait que le gouvernement doit faire des économies dans son budget pour respecter les 5% de déficit. On est en plein congrès des maires de France. Le congrès des maires de France, c'est l'association des maires de France qui réunit les élus locaux dans un contexte particulièrement tendu.
Madame la ministre, je ne pense pas que cette réponse rassure les élus, pas plus que les Françaises et les Français qui nous écoutent. Ils l'auront compris, ce sera moins de services publics au quotidien, moins d'emplois du fait de travaux moindres dans les collectivités.
Vous ciblez... Et on se doute que le Sénat, qui représente les collectivités, va rétablir les dépenses prévues, en partie notamment.
Merci beaucoup.
On verra ce qui restera dans le budget à la fin, mais c'est vrai qu'en ce moment, la grogne monte chez les élus locaux.
Jordan Guiton pour le Rassemblement National.
Jordan Guiton pour le RN.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. J'étais hier soir à Troyes, dans ma circonscription, pour une manifestation agricole. Ce que j'y ai entendu, c'est la même chose que l'année dernière, que 2022, que 2017, que 2012 ou même que 2007. Depuis des décennies, des traités de libre-échange sont signés et votés par tous les partis LR, macroniste, PS et viennent concurrencer de manière déloyale nos agriculteurs avec des produits qui ne respectent aucune norme sanitaire et environnementale. Le Mercosur, c'est l'aboutissement d'un processus de destruction massive de notre modèle agricole français. Mais il faut le dire, nous importons déjà 300 000 tonnes de viande bovine et un poulet sur deux consommé aujourd'hui dans notre pays par la faute de ceux qui l'ont permis, c'est-à-dire tous les anciens gouvernements.
De quoi les poulets? J'ai pas compris.
Vous essayez de gagner du temps de débat sur le Mercosur. Qu'en est-il du reste, Madame la Ministre? Les agriculteurs veulent vivre de leur travail avec des prix rémunérateurs, voire un État qui les protège de la concurrence déloyale, de la fraude à l'importation et d'une vie administrative simplifiée. Alors, Madame la Ministre, pourquoi ne pas avoir
proposé
une loi d'orientation agricole complète dès l'automne? Allez-vous enfin faire appliquer la loi Egalim, procéder à des contrôles à l'importation? Où en êtes-vous pour réaligner les normes françaises à minima sur celles européennes, pour avoir une concurrence loyale dans le marché unique? Je pense notamment à l'acétamipride ou aux nicotinoïdes. Où en est-on de l'instauration
néonicotinoïdes, ça faut
que jamais une production puisse être achetée à perte. Allez-vous mettre en œuvre le patriotisme économique dans la
Le traité de libre-échange Mercosur, c'est un traité qui est en cours de négociation actuellement entre l'Union européenne et l'Amérique latine, un traité de libre-échange qui vise à favoriser les échanges commerciaux entre les deux sous-continents. Une question importante qui est celle de l'importation en Europe et notamment en France de produits agricoles consommés et surtout produits dans des conditions vachement moins respectueuses de l'environnement et des animaux là-bas.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jordan Guiton. Tout d'abord, n'oubliez pas, Monsieur le député, que la France est une grande nation exportatrice de produits agricoles.
Ah oui.
Et que les accords que l'on peut conclure, les accords équilibrés qu'on peut conclure avec d'autres pays, sont utiles à nos producteurs. Je referme la parenthèse. Alors, dans votre question, comme d'habitude, beaucoup de sujets. Et je voudrais revenir sur quelques-uns d'entre eux. D'abord sur la loi d'orientation agricole. C'est une loi qui a vécu sa première lecture ici. Elle a été beaucoup amendée et elle est parvenue à un état qui est peut-être pas la grande loi agricole que certains espéraient. Mais en tout cas, c'est une loi qui est attendue par les agriculteurs. Et ce point devrait vous inspirer un peu plus de mesure dans l'analyse que vous en avez. Sur vous abordez la question des normes européennes, vous ne trouverez pas chez moi quelqu'un qui défende la surtransposition. De façon constante, nous avons toujours dit, dans la famille politique à laquelle j'appartiens, mais aussi dans une large part de cet hémicycle, combien la surtransposition des normes européennes était mortifère pour notre agriculture. Vous évoquez un produit en particulier, ce débat viendra...
Ce qu'on appelle la surtransposition, c'est le fait que les États membres aillent plus loin que ce que prévoit l'Union européenne dans certains domaines. C'est ça qu'on appelle surtransposer une directive. L'Union européenne donne un objectif de temps, et ben nous on décide qu'on va aller encore plus loin, c'est ça.
Qui est en effet très très défavorable à nos producteurs. Sur la question du revenu, vous avez une proposition qui est d'instaurer un prix minimum. Cette idée, elle semble comme ça pouvoir être séduisante. En réalité, le prix minimum sera le prix maximum. Et je ne suis pas certaine que ce soit vraiment une façon de garantir et le revenu de la matière première agricole et le revenu des agriculteurs. Je pense que c'est même tout le contraire. Vous aurez à vous exprimer sur Egalim, monsieur le député,
beaucoup,
puisque
Madame
nous allons légiférer dans quelques mois sur ce sujet important.
Il y aura une loi dans quelques mois, donc, annoncée par Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture.
Madame la ministre, la vérité, c'est que vous avez rejoint le macronisme avec votre famille politique, comme vous dites, pour quelques postes ministériels. C'est ceux qui ont mis à genoux l'agriculture française depuis 7 ans. Assumez
Merci.
Un petit peu.
Et le RN qui se veut le porte-voix des agriculteurs, aujourd'hui de plus en plus en colère.
Je vous remercie.
Contre le traité Mercosur. C'est étrange puisque le gouvernement également s'oppose au traité Mercosur. Donc,
merci, Madame la Présidente.
Ils sont d'accord quand même.
Nos élus locaux et en particulier les maires sont en première ligne pour répondre chaque jour, au quotidien, aux préoccupations de nos concitoyens, que ce soit sur le logement, le transport, la santé, mais aussi, ne l'oublions jamais, pour œuvrer à la transition écologique. Je veux, au nom de mon groupe, saluer l'ensemble des élus locaux pour cette action. Sans leur engagement, l'État ne pourrait seul répondre aux défis du quotidien. Plus encore, nous sommes face à des défis qui imposent d'agir main dans la main avec eux, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avancer sur des enjeux aussi cruciaux que l'artificialisation nette. Zéro artificialisation nette, par exemple, le changement climatique ou encore la situation budgétaire d'une gravité inédite. Les efforts sont donc nécessaires pour redresser les finances publiques. Et cela concerne l'État comme les collectivités territoriales. Chacun doit contribuer à la hauteur de ses capacités en luttant contre les dépenses inutiles, notamment sans que cela ne pèse sur la qualité de nos services publics ou les investissements des élus locaux. Et je pense bien sûr au bloc communal. Dans ce contexte, il est important, essentiel de retisser un lien de confiance avec les élus autour d'une trajectoire qui soit assumée par l'État comme les collectivités locales.
Emmanuel Mandon, qui a un petit peu de mal à poser sa question, c'est un député d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'ancien président du parc naturel du Pilat, figurez-vous. Absolument charmant. Il pose à nouveau une question, mais cette fois-ci du côté de la majorité gouvernementale, sur la question du budget des collectivités locales. Quelles sont les réponses qui vont être apportées par le gouvernement à cette grogne des élus qui monte compte tenu des économies qui leur sont imposées.
Comment va-t-il se décliner concrètement et permettre de renouer le lien avec eux ? Je vous remercie.
Emmanuel Mandon, il fait partie du groupe MoDem, donc du groupe des proches de François Bayrou.
Ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Merci. Allez, on écoute à nouveau la ministre.
Merci, monsieur le député Mandon. Vous avez raison, monsieur le député, quand vous mettez en avant l'engagement des maires. Et face à l'engagement des maires, bien évidemment, il y a le respect, la reconnaissance et la volonté du gouvernement de travailler avec l'ensemble des élus. Alors, pour travailler avec l'ensemble des élus, nous avons une feuille de route importante à partager. La première, monsieur le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, c'est incontestablement le redressement des comptes publics. C'est ce budget dont je viens de parler qui reste encore à améliorer. Le deuxième élément, c'est la dette environnementale. Le Premier ministre le disait dans le discours de politique générale. Et pour ce faire, vous avez raison, il est indispensable que nos communes puissent investir. On connaît tous ce triptyque, anticiper, quelque part gérer la crise et ensuite réparer. C'est l'enjeu majeur de l'événement climatique. Ensuite, bien sûr, nous avons à travailler sur des chantiers avec les élus dans cette relation fluidifiée. Vous avez parlé du zéro artificialisation nette. Vous le savez, les sénateurs viennent de rendre une proposition de loi. Votre Assemblée va commencer un groupe de travail. Le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, souhaite travailler sur ce sujet. L'autre élément, c'est évidemment celui du statut de l'élu. Donc très concrètement, avec l'ensemble de ces différents chantiers, nous devons répondre bien sûr d'abord au budget et ensuite nous engager ensemble sur une feuille de route dans le respect des compétences des uns et des autres. C'est cela, fluidifier les relations, c'est finalement ce qu'on appelle déconcentrer, c'est faciliter le lien entre le maire, le sous-préfet, le préfet.
Merci. Pas nécessairement la déconcentration. La déconcentration, c'est le fait que la plus de méthodes et de sujets soient traités au niveau local par les représentants de l'État qu'à Paris dans les ministères.
Madame la ministre de la Santé, hier à l'ouverture des débats au Sénat, vous avez annoncé que le ticket modérateur augmenterait de 5% pour les consultations médicales et pour les médicaments. En prenant cette décision, vous commettez un acte d'une violence inouïe.
Le ticket modérateur, pour faire simple, c'est la part qui reste à payer pour le malade.
Sans rien à voir, vous décidez arbitrairement, avant même que l'ensemble des parlementaires aient fini de débattre du budget de la sécurité sociale, que les Français doivent une fois encore être sanctionnés. Car en majorant le ticket modérateur, c'est le reste à charge des patients que vous augmentez, et particulièrement celui des plus modestes et celui des plus âgés, nos retraités, qui ont davantage besoin de soins et de médicaments. Je vous rappelle que ce reste à charge représentait déjà en moyenne 250 euros par habitant en 2022, dont 67 euros de dépenses de médicaments. Avec votre proposition, à chaque consultation chez un médecin, le patient devra désormais régler de sa poche 10,50 euros hors mutuelle. Vous allez nous répondre que les mutuelles prendront en charge l'augmentation de ce reste à charge. Mais c'est faux. Les organismes complémentaires, plus chers et plus inégalitaires que la sécurité sociale, ont été très clairs. Ils augmenteront leurs tarifs comme ils l'ont fait dans la dernière période, en augmentant en moyenne de 8 à 10% les cotisations. Ce sont donc bien les assurés sociaux qui paieront, s'ils en ont les moyens, puisque 3 millions de personnes n'ont pas de mutuelle. Vous accentuez ce qu'a montré le dernier rapport du Secours catholique sur la pauvreté, à savoir l'éloignement des plus vulnérables de la protection sociale. Comme vos prédécesseurs, votre choix est clair. Faire payer les patients plutôt que d'accepter des recettes supplémentaires qui répondent enfin aux besoins de santé des populations.
Yannick Monet, député du Parti communiste, qui a été travailleur éducateur spécialisé de rue, spécialisé de l'ingénierie sociale, qui pose une question sur l'alourdissement du ticket modérateur, donc l'affaiblissement du remboursement pour les malades qui va peser sur les plus pauvres. On écoute la réponse du gouvernement.
Monsieur le député, alors vous posez une question importante. Nous sommes en plein PLFSS, vous le savez, et au Sénat hier. Et quel est l'objectif du PLFSS? Le premier pour moi, c'est le soutien à l'hôpital, c'est l'amélioration de l'accès aux soins partout, c'est le soutien à la recherche et à l'innovation, c'est le déploiement d'une stratégie pour l'accès aux médicaments et c'est le développement de la prévention. Et quel est le deuxième objectif de ces PLFSS? C'est de tenir...
PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui décide justement du montant du ticket modérateur, par exemple.
Il tente à contenir un déficit de moins 16 milliards d'euros pour 2025. On n'est donc pas à l'équilibre et loin de là. Donc, l'ONDAM va augmenter de 9 milliards d'euros. Vous le
L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie.
À hauteur de 5 milliards d'euros. Dans ces économies était annoncé un quantum de sommes à transférer aux assurances complémentaires à hauteur de 1,140 milliard d'euros. J'ai réduit ce quantum en travaillant à 900 000 euros. Et il était prévu un ticket modérateur pour la consultation médicale de 10 points. J'ai diminué ce ticket modérateur à 5 points. Donc je pense que nous avons travaillé pour améliorer la trajectoire tout en gardant, je crois, des positions équilibrées pour chacun.
Geneviève Darrieussecq qui essaye de défendre les arbitrages qu'elle a obtenus par la négociation dans le PLFSS tout en rappelant le contexte évidemment d'économie nécessaire, y compris pour les dépenses de la Sécu.
Accès à la C2S que nous allons continuer de surveiller, voire même de rendre la C2S accessible à d'autres publics plus fragiles. Donc les plus fragiles auront cette capacité à continuer d'être protégés.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député, allez-y.
Merci, Madame la Présidente. Avec votre gouvernement, c'est toujours la même méthode. Vous annoncez le terrible en espérant nous faire accepter le pire. Mais le pire reste inacceptable.
Je vous remercie.
Effectivement, c'est une méthode de tous les gouvernements, hein, faire peur avec des baisses drastiques et ensuite négocier dans l'hémicycle des amoindrissements.
Merci, Madame la Présidente.
Classique, ils feront la même chose.
Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ouvrez les guillemets, face au choc fiscal qui s'annonce, les entreprises réduisent déjà la voilure en France. Ouvrez les guillemets, budget 2025, la tentation du grand large des entreprises. Monsieur le Premier ministre, ces titres de presse sont bien sûr le résultat des propositions délétères contre les entreprises qui ont été faites aux deux extrêmes de cet hémicycle pendant tout l'examen du budget. Mais ils traduisent également une forte inquiétude qui montre, à juste titre, chez nos entreprises et nos entrepreneurs. Le projet de loi de finances prévoit en effet une hausse de près de 5 milliards d'euros du coût du travail pour toutes les entreprises et même jusqu'à une hausse de 30% pour les jeunes entreprises innovantes. Cette inquiétude d'une montée de la pression fiscale, elle concerne toutes les entreprises, mais en particulier les TPE et PME qui représente plus de la moitié de l'emploi privé en France. Une hausse du coût du travail serait inédite en 30 ans. Tous les gouvernements l'ont baissé, de Lionel Jospin à Nicolas Sarkozy, en passant par notre honorable collègue François Hollande. Cette hausse irait totalement à l'inverse de notre objectif de plein emploi et nous semble très risquée pour la compétitivité de nos entreprises alors que la conjoncture internationale se dégrade.
Paul Midi, il est député EPR, Ensemble pour la République, ce sont les députés macronistes. Paul Midi, il est polytechnicien, il a travaillé pendant plusieurs années chez McKinsey, donc il sait très bien ce qu'il dit.
Notre groupe a fait de nombreuses propositions pour éviter cette hausse des charges. À coup nul pour l'équation budgétaire, car nous sommes attachés à la maîtrise des comptes publics. Réforme de l'assurance chômage, du millefeuille administratif, de la fonction publique, réduction des dépenses, limitation de niches fiscales. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer sur votre engagement à ne pas augmenter le coût du travail ? Pouvez-vous nous indiquer les pistes de travail de votre gouvernement pour atteindre cet objectif ? Merci.
Que va faire le gouvernement pour limiter la hausse du coût du travail ?
En charge des comptes publics et du budget.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Midi. Tout d'abord, permettez-moi de vous rejoindre sur votre constat. Votre constat d'abord de répondre à un impératif, celui de réduire le déficit public de la France et de le faire en responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord de baisser la dépense publique dans notre pays. Et ce n'est certainement pas la copie qui est sortie des propositions du Nouveau Front Populaire avec la complicité du Rassemblement National qui propose cela. Je vous rejoins parfaitement là-dessus. Et je salue la responsabilité de l'ensemble du Bloc central d'avoir refusé en première lecture là-dessus. Monsieur le député, vous posez ensuite une...
Je vous rappelle que le budget en première lecture qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, il a été rejeté parce que le budget a été considérablement modifié par la gauche qui a beaucoup alourdi, notamment le coût du travail, mais aussi l'ensemble des charges.
Vous connaissez parfaitement bien la réalité aujourd'hui des chiffres. Nous avons protégé nos entreprises pendant les 4 dernières années comme aucun autre pays ne l'a fait. Pendant la crise Covid, l'État, notamment grâce à cette majorité, a été au rendez-vous. L'activité partielle, les prêts garantis par l'État et la baisse du coût du travail. Et c'est ce qui a permis effectivement d'augmenter le taux d'emploi dans notre pays. Nous l'avons fait notamment avec un quantum de près de 20 milliards d'euros d'économies pour l'État au service du coût du travail, au service de la compétitivité de nos entreprises. Face au défi des finances publiques, nous sommes aujourd'hui sur un moment de vérité important. Oui, il est vrai, nous demandons aux entreprises de participer à cet effort de réduction du déficit public à hauteur de 4 milliards d'euros sur les 20 milliards d'euros de ces 4 dernières années. Mais vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui appelle à une certaine gravité, à une certaine responsabilité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et l'ensemble du gouvernement l'a déjà dit, nous sommes prêts à travailler ensemble. Et je veux que nous puissions encore le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y aura au Sénat cet après-midi également le débat lors du PLFSS pour que nous puissions trouver le meilleur compromis possible pour ne pas gréver l'emploi dans notre pays. La politique de
Laurent Saint-Martin qui commence à travailler les éléments de langage autour du compromis. Je vous rappelle que le texte, quand il va revenir à l'Assemblée nationale, va très probablement écoper d'un 49-3.
À présent, Madame Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris.
Madame la ministre de la Santé. Nous venons de passer des heures ici à débattre du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement était présent et jamais, jamais, vous n'avez parlé de déremboursement. Pourquoi ? À la sortie de la guerre, la France a fait un choix radical, audacieux et protecteur. Aucun citoyen ne devrait plus être exclu de la protection sociale. Chacun payerait en fonction de ses moyens, mais tout le monde y aurait accès en fonction de ses besoins. Tout cela pour prévenir le retour du fascisme. C'est par décret. Et pour affronter le, et sans affronter le débat parlementaire, qu'en catimini, vous décidez de rogner, partie par partie, cette protection sociale. Après les 3 jours de carence, 5% de remboursement en moins sur les médicaments et les consultations. Les mutuelles ont déjà augmenté leurs tarifs et vont devoir le faire à nouveau. Tout le monde n'a pas de mutuelle. Et les besoins évoluent. Au-delà de 80 ans, ils augmentent.
Après avoir... Il y en a dans le chat qui n'ont pas de mutuelle.
Retraite, c'est encore sur les personnes âgées que vous faites peser le poids de votre inconséquence budgétaire. Un Français sur 3 se prive de repas aujourd'hui et 1 sur 10 de soins, toujours les mêmes. Celles et ceux qui n'y arrivent pas. Parce que c'est long un mois sans argent, c'est très très long. Et c'est sur elles et eux qu'avec constance, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous tapez sans cesse. Mais vous êtes mauvais en calcul parce que se priver de soins quotidiens, C'est laisser la maladie gagner et la santé se dégrader. C'est finir aux urgences et mettre encore plus de tension sur l'hôpital public. Et puis c'est quoi cette volonté farouche de faire payer aux autres vos erreurs de gestion ? Je vous le dis, il y a plus de dignité dans la manière dont les personnes sans le sou gèrent leur budget que dans le moindre de vos décrets. Ma question est simple.
Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, qui porte un plaidoyer contre les coupes budgétaires du gouvernement dans le budget de la Sécurité sociale. Je vous rappelle que chaque année, l'Assemblée nationale débat à la fois du budget de l'État, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, et du budget de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
La députée Sandrine Rousseau. Alors, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit à votre collègue député tout à l'heure, mais compléter un petit peu la réponse. Nous sommes dans une situation que, je pense, vous mesurez tous. Vieillissement de la population, maladie chronique en augmentation, malade en longue maladie en augmentation, 400 000 de plus tous les ans. Aujourd'hui, nous avons 13 millions de personnes en affection longue durée qui ne seront absolument pas impactées par le ticket modérateur dont nous parlons là, bien sûr. Et nous avons aujourd'hui véritablement des financements. L'assurance maladie prend en charge 80% des soins et de la maladie, ce qui est une première parce qu'il y a 10 ans, c'était 71%. Donc nous voyons que les besoins augmentent et sont importants. Est-ce que notre système est le bon ? Est-ce que le financement est adapté aujourd'hui ? Nous sommes dans une société du soin. Je souhaiterais que nous passions dans une société de la prévention et du soin ensuite. Et nous avons besoin de travailler
à
l'avenir de notre système.
Non mais en vrai, je suis d'accord dans l'idée, mais ça ne veut pas dire rembourser moins.
Et nous en avons parlé pendant les débats parlementaires. Pour ce qui est des plus fragiles, Madame la députée, vous le savez bien, la C2S remplit sa fonction de soutien aux plus fragiles. S'il faut regarder si des personnes, notamment des petits retraités, pas des petits retraités, des grands retraités avec des petites retraites, doivent rentrer dans la C2S, nous le ferons. En tout cas, il y a un non-recours aussi, il y a un non-recours aux droits des personnes qu'il faut aller chercher, parce que cette C2S, elle protège les plus fragiles. Quant aux autres, eh bien, je travaillerai bien entendu avec les complémentaires, qui je sais ne sont pas toujours philanthropes, mais nous travaillerons avec elles afin qu'elles diminuent au maximum leurs prétentions d'augmentation des cotisations.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Rousseau.
Nous avons une perceuse qui a des choses à dire.
La maladie augmente, vous augmentez la précarité, c'est vraiment à contre-courant, Madame la Ministre.
Je parlais pas de Sandrine Rousseau, hein, calmez-vous. Hein, je parlais vraiment de la perceuse qui est à côté de chez moi, donc je vais être obligé de fermer ma gueule.
Dive pour le groupe Droite Républicaine.
Julien Dive. Droite Républicaine, c'est les Républicains.
Présidente, aimez-nous, on fera le reste. C'est le message qu'un agriculteur m'a confié hier sur l'un des nombreux feux de la colère, lieu de leur mobilisation. L'amour ne se prouve pas par des mots, mais par des actes. Il demande de la confiance, et le reste, c'est nous nourrir. Le chemin qui a mené à cette colère est long, jalonné de choix qui ont manqué de cohérence et de courage. Madame la ministre de l'Agriculture, les conséquences des blocages hérités de décisions, et de non-décisions d'ailleurs, accumulées au fil des années, reposent aujourd'hui sur vos épaules. Des réformes sans vision des choix réglementaires punitifs et des entraves administratives qui paralysent notre agriculture française. Il est vrai que le problème est conjoncturel et nous saluons les aides sur la trésorerie, la réduction des contrôles et les vaccins sur les élevages que vous avez annoncés. Mais le mal est aussi structurel et étouffe la compétitivité agricole nationale. Nous proposons d'abattre ce mur d'entrave et de bâtir une transformation de fond, garantir un revenu décent, repenser la loi Egalim et assurer que le prix payé en fonds de rayon soit respecté jusqu'à la ferme. Avec une transparence totale dans la chaîne de valeur, que chaque acteur assume ses responsabilités pour que nos paysans puissent enfin tirer un revenu digne de leur travail. Et puis, il y a cette ultime provocation, le Mercosur. Nos exploitants sont déjà écrasés par une avalanche de contraintes, des normes phytosanitaires strictes qui interdisent certains produits chez nous, mais les tolèrent pour des importations concurrentes. Ce traité menace de submerger nos filières agricoles avec des produits étrangers qui ne respectent ni nos standards, ni nos exigences de qualité. C'est une menace écologique, sanitaire et économique. Instaurons un rapport de force avec Bruxelles. Un veto clair sur cet accord est nécessaire. Soyons prêts à imposer des conditions fermes. Nous, les 47 députés de la droite.
Maman, je suis désolé, je peux rien dire. La perceuse, elle est énorme. J'ai jamais entendu une perceuse aussi forte.
Un de la Constitution, un débat suivi d'un vote au Parlement français sur ce traité. Êtes-vous prête à respecter ce vote et à engager un véritable bras de fer avec la Commission européenne pour défendre notre souveraineté alimentaire?
Merci beaucoup. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive. Merci pour cette question qui est d'actualité plus que jamais avec la crise agricole qui frappe nos paysans. Une crise terrible pour certains territoires, crise climatique, crise météorologique, crise sanitaire, crise de sens aussi. Et au fond, vous m'interrogez sur le sentiment d'urgence dans laquelle se trouve cette profession pourtant si essentielle à notre pays. Alors, je voudrais vous dire que depuis que je suis arrivée, 55 jours, je me suis efforcée d'agir vite. Vous évoquez les prêts de trésorerie. C'est à la demande des agriculteurs que j'ai mis en place deux types de soutien à la trésorerie, parce que les trésoreries aujourd'hui sont exsangues, c'est vrai, dans certaines productions et dans certains territoires. Deux types d'aides, un prêt conjoncturel à court terme, à un taux réduit par l'intervention de l'État et aussi avec le soutien des banques, et qui répond à un besoin du moment. Et puis, il y a des exploitations agricoles qui souffrent de façon plus structurelle, qui ont besoin d'un autre type d'aide sur une douzaine d'années, et un prêt qui soit, celui-là, garanti par l'État pendant 12 ans et à 70%. Donc ces deux types d'aides sont, je crois, importants pour pouvoir répondre à la demande de nos exploitants agricoles. Mais vous avez raison, il faut leur donner des perspectives. Et de ce point de vue, le Mercosur est une fermeture de l'avenir pour eux, parce qu'il s'en prend frontalement à nos producteurs de bœuf, de volaille, de sucre. Et avec le Premier ministre, nous sommes résolus à nous battre avec la plus grande énergie. Et de ce point de vue, je vous remercie. Avec votre groupe, vous avez souhaité que s'instaure un débat.
Merci,
il sera
madame.
Fructueux et croyez bien que nous serons très, très mobilisés sur cette question.
Merci, Madame la ministre. Et je vous indique à cet égard que le débat qui initialement avait été fixé au mardi 10 décembre a été avancé. Il aura lieu le 26 novembre après la séance des questions au gouvernement en accord avec le gouvernement. Alors la parole est à présent à Monsieur Emmanuel Fernandez pour le groupe La France Insoumise.
Merci. Selon un rapport de l'ONU présenté hier à New York, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais bien que vous persistez à nier cette atroce réalité, parlant même la semaine dernière de faute morale en réponse à mon collègue David Guiraud, qui utilisait pourtant ce terme à bon escient. Mais puisque vous refusez semaine après semaine de nous entendre, je vais citer mot pour mot le communiqué de l'institution onusienne. Par son siège de Gaza, l'obstruction de l'aide humanitaire, le meurtre de civils et de travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement la mort, la famine et des blessures graves en utilisant la privation de nourriture comme une arme. Oui, à Gaza, Israël commet un génocide. Honte et déshonneur à tous ceux qui, dans cet hémicycle et au-delà, s'en rendent complices en pensant pouvoir étouffer cette vérité. Honte et déshonneur à ceux qui laissent le gouvernement israélien piétiner le droit international, les droits humains et les institutions qui les défendent. Heureusement, vous n'êtes plus qu'un petit club étriqué, auto-convaincu de votre propre désinformation, en témoigne la piteuse tribune officielle face à un stade de France presque vide pour le match de la honte jeudi dernier.
Oui, Emmanuel Fernandez, député de la France Insoumise, qui pose une question sur la situation du conflit entre Israël et la Palestine.
Monsieur Monsieur le Premier ministre, l'un de vos prédécesseurs, Dominique de Villepin, prononça un jour ces mots au siège de l'ONU lors d'un fameux discours. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. Monsieur le Premier ministre, en soutenant le gouvernement israélien, coupable d'un génocide qui disqualifie l'ONU, qu'avez-vous fait de votre conscience ?
Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Prima, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Alors vous nous interrogez sur la qualification de génocide. Et en droit, le génocide est en effet défini à l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, ainsi qu'à l'article 6 du statut de Rome créant la Cour pénale internationale. En vertu de ces dispositions, le génocide s'entend comme la commission de certains actes que vous mentionnez dans l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. La qualification de génocide, sur le fondement de l'une de ces dispositions relève exclusivement de la compétence du juge. En l'occurrence, ni la Cour internationale de justice, ni la Cour pénale internationale n'ont estimé à ce jour qu'Israël ou ses dirigeants commettaient un génocide à Gaza.
Il y a des instructions qui sont en cours.
La France nous soumet à cette décision et pour l'instant, nous sommes dans ce statut. La poursuite de la guerre à Gaza, monsieur le député, où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader du fait de l'intensification des opérations au nord de l'enclave, est intenable.
Non, elle a raison. Il n'y a pas eu de condamnation. En l'état actuel, les cours n'ont pas tranché. Il y a des procureurs qui ont pris des positions. Mais c'est des positions de procureurs, ils mènent l'enquête.
C'est massive d'aide humanitaire à Gaza et de préparer le jour d'après. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères s'efforce, sous l'autorité du Premier ministre, de faire par ses voyages répétés et ses négociations.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Nicole Le Peih pour le groupe EPR.
Une question à nouveau du groupe EPR, le groupe
Merci
des macronistes.
Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Nos campagnes incarnent l'identité et l'avenir de notre pays. Elles nourrissent nos familles quotidiennement, entretiennent nos paysages et préservent un patrimoine vivant. Pourtant, nos agriculteurs, déjà fragilisés par des crises climatiques, sanitaires et économiques, affrontent aujourd'hui une situation critique. La chute des revenus, la montée des coûts de production et une concurrence internationale déloyale. Face à ces défis, des mesures significatives ont été prises sous le précédent gouvernement. La réduction de la taxe sur le foncier non bâti, le renforcement de la dotation pour épargne de précaution, le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs et les réponses aux intempéries ont marqué de réels progrès pour préserver nos territoires. Par ailleurs, des efforts notables ont simplifié les démarches liées à la transition agroécologique. Ces initiatives, que je salue, ont apporté un souffle indispensable à des exploitations en difficulté. Cependant, la disparition persistante des exploitations agricoles, des savoir-faire traditionnels et des emplois ruraux demeurent profondément inquiétantes. Les accords commerciaux tels que le Mercosur, qui ignorent nos standards agricoles, fragilisent davantage nos filières vulnérables et mettent en péril notre souveraineté alimentaire. Alors, Madame la Ministre, où en sommes-nous dans le renforcement des dispositifs engagés par le précédent gouvernement ? Et quels moyens comptez-vous mobiliser pour garantir un modèle agricole viable, résilient et respectueux de nos normes ? Enfin, quelle assurance apporterez-vous pour protéger notre agriculture de tout accord commercial déloyal ? Ensemble, Madame la Ministre, refusons de laisser nos territoires et nos paysans sombrer dans le découragement.
On sent une véritable crainte du côté de la majorité relative qui soutient le gouvernement d'une contagion de la crise agricole, le retour à la crise de l'année dernière. Vous vous en souvenez juste avant que Gabriel Attal arrive à la tête du gouvernement. Les agriculteurs dans la rue, etc., les images dans les JT. On écoute Annie Genevard à nouveau qui est en premier plan sur cette crise agricole.
Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Nicole Le Peih, vous ne m'entendrez pas dire qu'entre ce qu'a fait l'ancien gouvernement et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, il faut tirer un trait et faire tout autre chose. Je l'ai dit à Gabriel Attal, je le redis aujourd'hui devant le groupe EPR, les bonnes mesures, elles ont vocation à être mises en œuvre et à être pérennisées. Et c'est précisément depuis 55 jours ce que je fais à la tête du ministère de l'Agriculture. Vous avez pris des engagements, je les honore et je vais même au-delà. Et je voudrais vous en faire rapidement l'exposé parce que je crois qu'il est important que nous disions au monde agricole que vous connaissez bien, que je connais bien, combien nous avons entendu non seulement leurs difficultés mais leurs souffrances.
Il y a des agriculteurs dans le chat.
Et cette souffrance, il faut l'entendre, il faut la comprendre et il faut y apporter réponse. Alors, depuis 55 jours, je le dis, les engagements pris sont tenus ou sont en passe de l'être. Mais nous avons dû, face à la violence de la crise, ajouter un certain nombre de dispositifs. C'est d'abord conforter le budget avec un choc fiscal et social qui apporte un allègement puissant de charges pour nos éleveurs, pour nos producteurs. Ils l'attendent, ils le demandent, ce sera fait dès lors que le budget sera voté. Je voudrais évoquer, et c'est quand même 300 millions d'euros qui seront apportés, je voudrais évoquer la mise en œuvre de la retraite, de la réforme des retraites agricoles, la réforme DIV. Les 25 meilleures années seront prises en compte, et ce, à partir du 1er janvier 2026. Je voudrais évoquer la simplification. Le chemin de simplification sur lequel je veux emmener les agriculteurs a commencé avec le contrôle administratif unique. Et les mesures d'urgence pour lever les impasses sanitaires. Et les prêts exceptionnels de trésorerie dont je viens de parler. Et les réponses aux crises sanitaires avec le fonds d'urgence annoncé par le Premier ministre à Cournon. La loi d'orientation agricole va reprendre dans 3 semaines au Sénat.
Merci beaucoup.
Et au Sénat, en Madame séance
des lois. Là, on est à 20 secondes de dépassement, Annie. Annie, tu vas trop loin. Annie, tu pousses.
Merci, mes chers collègues.
Mais la ministre de l'Agriculture, en tout cas, qui souhaite véritablement défendre les mesures de simplification, notamment qu'elle met en place à destination des agriculteurs.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Ma question s'adresse au Premier ministre. Votre copie budgétaire initiale était de 30 milliards d'impôts supplémentaires. Mais il semblerait que vous vouliez encore aggraver les choses. Augmenter le ticket modérateur de 5%, c'est augmenter le prix des médicaments et des soins. Le reste à charge sera trop lourd pour nos concitoyens qui ont déjà beaucoup de mal à se faire soigner et cela pèsera directement sur leur pouvoir d'achat déjà fragilisé. Relever les droits de mutation, dit frais de notaire, c'est achever d'installer la crise du logement et c'est surtout trahir les Français. Nos droits de mutation sont les plus chers d'Europe, un record dont on se serait bien passé. Au moment où
Bernard Chey, le député de l'UDR, l'UDR c'est l'Union des droites pour la République, c'est le parti d'Éric Ciotti. Donc ce sont les députés de droite qui se sont ralliés à Marine Le Pen.
Primo accédant. Augmenter le versement mobilité, semble-t-il, à la demande du maire de Nice, c'est pénaliser gravement nos entreprises et nos emplois, déjà fragilisés par une fiscalité excessive. Ne suivez pas pour la France le mauvais exemple d'irresponsabilité fiscale que l'on connaît à Nice. C'est un impôt de production, donc le pire des impôts. Il frappe les entreprises pourvoyeuses d'emplois. Dans ma circonscription à Nice, cette augmentation s'ajoute à l'augmentation de 15% de la TOM, d'une taxe foncière à 35%, d'un taux de versement mobilité à son maximum. Nous vous demandons de retirer ces 3 mesures et de baisser enfin massivement les dépenses publiques en réduisant et en simplifiant le périmètre de l'État. Merci.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics.
Alors, une question sur le matraquage fiscal.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés.
C'est marrant, il n'a pas tapé sur la gauche, parce que pour l'instant, enfin, il aurait dû taper sur la gauche en disant que c'est à cause des amendements de gauche qu'il y a un matraquage fiscal.
Tel que présenté.
Enfin, je ne suis pas là pour écrire ses fiches à sa place, mais.
Budget de matraquage fiscal, voilà. C'est même tout le contraire. C'est d'abord un budget qui a enfin le courage de passer d'abord par la réduction de la dépense publique. Et vous le savez, Monsieur le député, il n'est pas aisé de baisser la dépense publique dans notre pays. Et ce que nous proposons à hauteur de 20 milliards d'euros pour l'État, 15 milliards d'euros pour la sécurité sociale et 5 milliards d'euros pour les collectivités, c'est un effort qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été fait dans notre pays. Et j'invite l'ensemble des députés de votre groupe, s'ils ont des propositions complémentaires, à nous les faire, car pour l'instant, nous ne les avons pas encore vues. Vous évoquez
Vous évoquez, monsieur le député, un certain nombre de sujets liés au quotidien, soit de nos concitoyens, soit des entreprises. Tout d'abord, le sujet du ticket modérateur, madame la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a eu l'occasion d'abord de le préciser. C'est quelque chose qui était sous ONDA, mais qui était évidemment présenté dans le texte initial. Ce n'est donc pas quelque chose en plus, c'est quelque chose que nous avons présenté dès le début de ce texte. Et puis, vous présentez deux leviers de fiscalité qui sont des fiscalités affectées à nos collectivités territoriales. Et là, monsieur le député, je vais vous demander en retour un peu de cohérence. On ne peut pas, d'une part, vouloir protéger les recettes de nos départements et dire à juste titre que nos départements ont connu des baisses de recettes liées aux droits de mutation à titre onéreux, liées à une hausse de dépenses sociales, et ne pas accepter leur demande unanime de pouvoir, sur leur délibération et pas sur imposition de l'État, de pouvoir les augmenter de 0,5 points. De la même façon, monsieur le député, concernant le versement mobilité, sachez que c'est une demande de l'ensemble des présidents de nos régions et que c'est une facilité à leur délibération et que ce n'est en aucun cas quelque chose imposé par l'État, mais une facilité laissée à ces collectivités pour leur donner de l'oxygène, financer leur fonctionnement, financer leur investissement.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
C'est une taxe afférée. Je ne me souviens plus le financement mobilité.
Monsieur Thibault Monnier pour le Rassemblement national.
Merci, madame la présidente.
Nouvelle question de RN avec Thibault Monnier.
La question s'adresse au ministre de la Justice, Didier Migaud. Monsieur le ministre, il y a un an, jour pour jour, la Drôme devait être une terre martyre de l'ensauvagement et du laxisme d'État. Il y a un an, le parvis de la salle des fêtes du paisible village de Crépol était maculé de sang de victimes innocentes. Thomas, ce jeune rugbyman de 16 ans, était touché en plein cœur et décédé pendant son transfert à l'hôpital. 16 autres participants étaient blessés, dont deux très grièvement, et on dénombre à ce jour 192 victimes, dont plus de 60 jeunes atteints de troubles psychotraumatiques. Depuis ce drame, on ne sait pas encore lequel des assaillants a porté le coup fatal à Thomas. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que l'onde de choc du drame de Crépol, bien loin de susciter un regain de cohésion nationale, a au contraire aggravé la fracture communautaire et la haine anti-française jusque dans l'enceinte même des collèges et des lycées de notre territoire. Ce que l'on sait, c'est que les 14 suspects mis en examen, nombre d'entre eux issus du même quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, étaient déjà des délinquants connus des services de police. Ce que l'on sait aussi, monsieur le ministre, c'est que 9 témoins du drame ont entendu cette phrase qui glace le sang. On est là pour tuer des blancs, on est là pour planter les blancs. Ce que l'on sait enfin, c'est que le jour même du meurtre de jeune Nicolas, à la sortie d'une discothèque par Hassan Youssef Dabi, un étranger impliqué dans le narcotrafic marseillais, votre gouvernement refusait les propositions de loi du groupe RN sur le rétablissement des peines planchers et sur l'expulsion des criminels étrangers.
À propos des peines planchées, Marine Le Pen, elle en est où ?
Monsieur le ministre, ma question sera très simple. C'est la même question que se posent les parents de Thomas, les parents de Nicolas que j'ai rencontré la semaine dernière. C'est la même question, au fond, que se posent tous les parents de France qui, chaque jour, ont peur pour leur enfant. Quand allez-vous enfin agir et engager le réarmement de notre appareil judiciaire et carcéral pour protéger la vie des Français ?
Thibault Monnier qui pose une question assez large sur l'insécurité. Un an après le drame de Crépol, on écoute la réponse de Didier Migaud, le ministre de la Justice.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, votre question nous ramène douloureusement à cet événement dramatique, la mort de Thomas, adolescent de 16 ans, décédé il y a tout juste un an. Vous le savez, le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire empêche le garde des Sceaux de commenter toute affaire en cours. Il appartient au seul procureur de la République de le faire, et c'est ce qu'a fait le procureur de Valence. Le garde des Sceaux est aussi le ministre des victimes, et avec la représentation nationale, je veux avoir une pensée émue pour Thomas, sa famille, ses proches, ainsi que pour les autres victimes que vous avez citées dans cette affaire. Et je pense évidemment à Nicolas, à sa famille, lui aussi disparu récemment dans des conditions tout aussi dramatiques et qui, vous le savez, connaissait Thomas. J'ai entendu les déclarations de la famille de Thomas, d'une extrême dignité, qui a dit sa confiance dans la justice et indiqué que si on veut qu'elle soit rendue de façon qualitative, il faut lui laisser ce temps. Et je ne peux que m'associer à ces propos. Le garde des Sceaux est chargé de définir, sous l'autorité du Premier ministre, la politique pénale du gouvernement et de donner à la justice les moyens nécessaires pour qu'elle exerce la plénitude de son office et que la justice passe. Et soyez assurés que ma détermination, celle du Premier ministre, est absolue à cet égard. Nous combattons le crime, qu'il soit le fait de majeurs ou de mineurs, et nous renforcerons notre arsenal législatif autant que nécessaire, notamment en direction des mineurs. Dans ce cas, le Premier ministre l'a affirmé dans sa déclaration de politique générale, il faut revoir certains pans de la justice des mineurs pour atténuer l'excuse de minorité et aménager un Merci. Type de comparution immédiate. Et nous le ferons. Il y a une proposition
Merci
de loi
beaucoup,
de Gabriel Attal et nous en débattrons.
Merci, monsieur le député.
En conscience, monsieur le ministre, l'œil était dans la tombe et regardez Caïn.
Je vous remercie.
J'ai pas la ref. Attends, Ancien Testament, Caïn.
Présent à monsieur le président.
Caïn, la tombe, c'est le frère de. Attends. Ah putain, je l'ai pas.
Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre.
Abel et Caïn. Abel. Abel a tué Caïn.
Et au nom de mon groupe, je voudrais.
Je sais plus, putain.
Exceptionnel des maires et de leur équipe municipale. Mais je souhaite aussi rappeler notre opposition ferme à la réduction de 5 milliards des dotations aux collectivités. Elles sont le premier investisseur public. Et réduire leur capacité d'action risque de provoquer une récession. Je veux ici aussi réaffirmer formellement qu'elles ne sont pas responsables de l'énorme déficit public. Les élus locaux sont la solution. Les maires sont en première ligne pour protéger nos concitoyens face aux crises sociales, économiques et écologiques. Plusieurs l'ont rappelé ici et heureusement qu'ils étaient mobilisés pour pallier les carences de l'État central lors de la crise du Covid. Pourtant, de plus en plus de maires sont démunis et envisagent d'abandonner leur mandat. Il est essentiel, monsieur le Premier ministre, de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions afin de valoriser leur territoire. À leur côté, les députés Liot demandent un nouvel élan pour une réelle décentralisation. Depuis 7 ans, le pouvoir a renforcé la centralisation et a confiné la décision politique à des experts souvent parisiens et des technocrates toujours. Dans les médias, on entend depuis quelque temps qu'il serait envisagé le retour du cumul des mandats pour les parlementaires. Or, ce n'est pas avec des vieilles recettes et des rustines que l'on transformera le pays.
Merci Stéphane.
Au côté des Françaises et des Français, nous voulons recréer de la confiance, développer proximité et efficacité de l'action publique en garantissant une réelle autonomie fiscale, en permettant une réelle adaptation des normes et en supprimant les doublons, ce qui permettra à terme de simplifier et d'économiser. Nous devons être ambitieux pour nos territoires. Nous avons le choix entre l'audace ou l'enlisement. Alors, monsieur le Premier ministre, quel est votre choix? Quelle est votre feuille de route pour redonner de la liberté et des moyens d'action à nos collectivités locales?
Une question assez générale de la part de Stéphane Lenormand. À l'occasion du congrès des maires de France, quelles sont les propositions du gouvernement pour améliorer le quotidien des maires, les maires qui s'arrachent les cheveux pour essayer de boucler des budgets avec les baisses de dotations de l'État? On écoute Michel Barnier, le Premier ministre, qui a souhaité répondre en personne.
Pour, comme l'avait fait tout à l'heure Emmanuel Mandon et Stéphane Delautrette, et la ministre Catherine Vautrin leur a répondu, saluer l'engagement des élus. Vous avez dit tout à l'heure technocrate, on sait tous qu'il y a des technocrates et des bureaucrates et des experts. Vous ne trompez pas, monsieur le Président. Je n'oublie pas que j'ai présidé un département pendant 17 ans et je n'oublie pas ce que j'ai appris là, en Savoie, aux côtés des élus, des maires et aussi avec la région.
Il y a des élus locaux dans le chat?
Je ne l'oublierai pas. Je pense aussi, monsieur le Président de Normand, que quand les technocrates prennent le pouvoir, ça arrive quelquefois, à Bruxelles, Paris, c'est que les hommes politiques ou les femmes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et ce n'est pas, vous l'avez compris, dans cet esprit que j'ai l'honneur de diriger le gouvernement. Je sais que les élus locaux auxquels nous rendons hommage, et il y a un certain nombre dans les tribunes, sont les premiers militants de la solidarité, de la cohésion territoriale et sociale. Je sais qu'ils ont été en première ligne quand il y a des crises ou des catastrophes. Vous avez rappelé la crise du Covid, on pourrait citer les exemples dramatiques des catastrophes naturelles qui se multiplient et qui vont se multiplier. On pourrait trouver plein d'exemples de ce travail. Je voudrais aussi dire que j'ai toujours été frappé que dans ces assemblées locales, municipales, départementales, régionales, dans les intercommunalités, on sait se respecter, on sait travailler ensemble. On n'est pas d'accord, on ne vient pas du même endroit, on ne va pas toujours au même endroit, mais on sait se respecter. Et pour tout dire, à la place où je me trouve, et je répète souvent que pour un certain temps que je ne connais pas, il dépend de vous, mesdames et messieurs les députés.
Censurez-moi.
Je trouve dans cet état d'esprit du travail en commun une source, comment dirais-je, d'inspiration et d'espérance comme Premier ministre. Alors, cet hommage étant rendu, le problème que vous posez, que nous avons à traiter ensemble avec les responsables locaux, c'est celui de l'état des finances publiques, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Nous avons trouvé un déficit, nous avons été engagés à réduire ce déficit dans l'intérêt national, monsieur le président des Normands. Ce n'est pas l'intérêt national que de laisser filer une dette qui allait à vers 7-8%, avec des intérêts d'emprunt que nous allons payer cette année, des intérêts d'emprunt de 57 milliards d'euros. 57 milliards d'euros, je préfère que cet argent soit utilisé à l'avenir au profit de l'éducation, de la sécurité, de l'équipement des collectivités locales. Donc nous devons réduire cette dette. C'est l'intérêt national. Et c'est un effort collectif auquel, en responsabilité, j'ai décidé d'appeler tous les acteurs du pays en tenant compte des plus faibles et en les respectant. Voilà pourquoi nous avons engagé avec Catherine Vautrin ce travail aux côtés des collectivités. Mais je suis aussi conscient que ce budget que j'ai dû présenter avec le ministre des Comptes publics en l'espace de 15 jours, jamais un Premier ministre n'a été amené à présenter un budget dans une contrainte de temps aussi rigoureuse, il n'est pas parfait, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a des adaptations. C'est dans cet esprit que je dialogue. Je l'ai fait à Angers la semaine dernière avec les départements. Je le ferai cette semaine avec les maires. Et nous avons aussi rencontré les régions de France. Au département, j'ai annoncé un certain nombre de mesures pour alléger l'effort qui leur est demandé. Le fonds de réserve sur lequel nous allons procéder à une réduction très significative de l'effort qui leur est demandé. Le FCTVA qui ne sera pas rétroactif. La CNRSC avec un lissage de l'effort pour équilibrer le régime en 4 ans au lieu de 3 ans, et puis d'autres mesures. Et je compléterai ces propositions avec les maires dans quelques jours. Et au-delà de ces questions budgétaires et fiscales, la question de la simplification. Vous avez très bien dit, monsieur Lenormand, que, monsieur le Président, que les maires ont envie qu'on les laisse gérer librement les collectivités locales. Voilà pourquoi,
avec du pognon, surtout.
J'ai annoncé ces mesures. Nous allons compléter et nous continuerons avec le Sénat, qui a maintenant la main sur le budget, cet effort de simplification et de soutien aux collectivités locales.
Merci. Je rappelle que le Premier ministre n'a pas de limite de temps de parole. Il est le seul orateur de l'Assemblée nationale à ne pas avoir de limite de temps.
Il sera toujours force de proposition pour redonner plus de pouvoir aux élus locaux. Merci.
Je vous remercie. La parole est à Madame Muriel Levrault pour le groupe La France Insoumise.
Nouvelle question de La France Insoumise.
Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Santé, notre système de santé n'en finit pas de sombrer. 87% du territoire est un désert médical. Pas moins de 6,7 millions de Français sont privés de médecins traitants. 85% des EHPAD sont en grande difficulté financière. Face à l'inaction des gouvernements successifs, des maires de mon département et d'ailleurs ont pris des arrêtés pour contraindre l'État à instaurer un plan d'urgence pour l'accès à la santé. D'autres installent sur leur commune un hôpital de campagne tenu par des PADHUE ou ont carrément interdit à leurs administrés de tomber malades. D'autres encore se voient contraints d'entrer en résistance pour sauver leurs EHPAD et nombre d'entre eux participent avec la population aux manifestations contre les fermetures d'urgence, de maternité, de lits, de services. Mais au lieu de leur répondre avec une politique de santé adaptée aux besoins de leur territoire, certains ont été assignés devant les tribunaux et même parfois entendus en garde à vue. On en est là quand même. Pourtant, en amendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le nouveau Front populaire a montré qu'il était possible de financer les besoins en matière de santé. Mais vous avez préféré renvoyer le texte au Sénat dans sa version initiale pour vous assurer qu'on ne remette pas en cause votre vision comptable et managériale destructrice. Pour préserver les intérêts des ultra-riches, vous vous apprêtez à infliger à nos services publics une cure d'austérité sans précédent, alors que les inégalités d'accès aux soins ne cessent de s'aggraver. Aujourd'hui encore, des gens meurent sur des brancards dans les couloirs des hôpitaux. On vous l'a déjà dit. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous aux élus locaux qui redoublent d'initiatives pour vous alerter et qui se retrouvent devant les tribunaux? Quel plan d'action immédiat et concret entendez-vous mettre en œuvre pour garantir un accès équitable aux soins sur tout le territoire? Mais peut-être, Madame la Ministre, préférez-vous en finir avec notre système de santé publique et notre sécurité sociale au profit des cliniques privées, auquel cas assumez, annoncez clairement votre projet de santé pour les riches.
Muriel Levrault, qui pose une question globale sur le système de santé et sur les problèmes de financement. Je vous rappelle que le projet de loi de financement de la sécurité sociale vient d'être terminé dans son examen de première lecture à l'Assemblée nationale par les députés.
Bon, une partie de votre question est un peu caricaturale quand même. Et je dois vous dire néanmoins, si vous voulez bien écouter ma réponse, que nous avons un sujet en France de difficulté d'accès aux soins pour une raison majeure, c'est que nous n'avons pas suffisamment de médecins et que cela ne date pas d'hier et que effectivement la prospective en nombre de médecins à former, y compris de soignants en général, n'a pas été le fort de notre pays depuis 30 ans. Ça, c'est une réalité. Donc, bien entendu, nous avons besoin d'attendre le temps de formation des médecins qui sont maintenant en formation. Mais à toute crise, mesdames, messieurs les députés, à toute crise, nous trouvons des solutions et des solutions innovantes. Et je veux saluer les élus locaux en cette journée justement de congrès des maires qui travaillent activement avec tous les professionnels de santé des territoires au sein des CPTS, au sein des contrats locaux de santé pour construire des solutions. Et les solutions dans une localité très rurale ne sera pas la même que des solutions à Paris ou dans la banlieue parisienne. Donc nous avons besoin d'agilité, nous avons besoin d'innovation et d'ingénierie territoriale. Et nous y arrivons. Les CPTS, les services d'accès aux soins, les liens entre l'hôpital et les médecins libéraux qui se renforcent.
Les CPTS, ce sont les instances de coordination des professionnels de santé au niveau local.
Vous n'avez pas la parole, laissez la ministre répondre. Donc,
il y a des solutions qui se construisent à l'échelle de chaque territoire. Et ce matin, je suis allée sur le salon des maires où j'ai pu voir un médicobus qui a été déployé en Lozère, qui est absolument une solution innovante et formidable.
Merci, Madame la Ministre. Il vous reste 2 secondes.
Oui. 8 ministres de la Santé en 7 ans. Aucun n'a eu la volonté de faire quoi que ce soit.
Laissez beaucoup, ma chère collègue.
Elle aurait pu être plus généreuse sur le temps de parole, là.
Céline Hervieux pour le groupe socialiste. Ah.
Céline Hervieux.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée de la Famille et de la Petite Enfance. Madame la Ministre, maltraitance, mauvais traitement et violence physique, rationnement sur les couches ou sur la nourriture, ces dérives n'ont pas leur place dans le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui, 19 novembre, les professionnels sont en grève. J'étais ce matin à leur côté devant votre ministère. La colère de ces travailleurs essentiels est immense, ou devrais-je dire ces travailleuses, car ce sont majoritairement des femmes. Leur travail n'est pas assez respecté, leur travail n'est pas assez rémunéré, leur travail n'est pas assez considéré. Ce sont des professionnels qui sont dévoués à nos enfants et qui sont pourtant victimes d'un système qui dysfonctionne gravement. Je rappelle qu'il y a 2 ans, un enfant est mort dans une crèche. Pour permettre un accueil digne des tout-petits, il faut de la dignité dans le travail de ceux qui les accueillent. Chaque jour, ce sont des centaines de professionnels de la petite enfance qui jettent l'éponge. Et il manque 10 000 postes aujourd'hui en France. Et l'État n'est pas au rendez-vous. On a plus d'une place sur deux aujourd'hui en France qui est créée dans le secteur lucratif. Et plutôt que d'investir dans le secteur public, de soutenir nos crèches municipales, l'État dilapide l'argent des Français pour alimenter des profits privés au détriment de la qualité d'accueil. Et même la société civile s'emparent de ce sujet, à l'instar d'Anticor, par exemple, qui a porté plainte pour détournement d'argent public. Et pendant ce temps-là, nos collectivités qui sont exsangues sont prises à la gorge et ne parviennent pas à remplir leur mission de service public. Alors, Madame la Ministre, serez-vous enfin la ministre que les professionnels de la petite enfance attendent depuis tant d'années pour résoudre les enjeux d'un secteur qui est en crise? Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, réforme du mode de financement pour sortir de la logique comptable et de la financiarisation, respect des taux d'encadrement, les solutions sont connues. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour agir?
Céline Hervieux, la députée socialiste, qui pose une question sur l'encadrement des tout-petits dans le système des crèches et de la petite enfance.
Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Céline Hervieux, alors d'abord vous dire qu'évidemment le gouvernement est très sensible au point que vous soulevez, très sensible aux constats qui ont été réalisés dans le secteur de la petite enfance et notamment à certaines dérives que vous avez soulevées, notamment dans le secteur privé lucratif. Plus globalement, pour répondre aux questions que vous soulevez, le gouvernement entend répondre aux difficultés du secteur de la petite enfance et il a déjà engagé des travaux pour y remédier. En premier lieu, la mise en place du service public de la petite enfance.
Moi, je suis pour le droit de vote des tout petits enfants.
En janvier 2025. Qui permettra, en confiant aux communes la compétence d'autorité organisatrice, d'organiser l'offre d'accueil et son adéquation aux besoins locaux. Ensuite, vous avez soulevé la question de la qualité de l'accompagnement. Ce service s'accompagne d'un référentiel qualité pour l'accueil du jeune enfant et d'une stratégie de contrôle coordonnée. Pour favoriser et impulser la création de places d'accueil du jeunes enfants, la ministre de la Famille et de la Petite Enfance, Agnès Canayer, engage une réforme du financement des modes d'accueil collectifs et qui portera sur toutes ses dimensions. Elle veillera, bien entendu, à ce que tout risque de dérive soit écarté. Et enfin, rien ne se fera sans les professionnels de la petite enfance. Un comité de filière composé des représentants de tous les acteurs de la filière travaille sur cette question et sur toutes les dimensions visant à améliorer la formation, les parcours et les conditions de travail des professionnels. Si nous partageons le constat de certaines difficultés et de risques que vous avez évoqués, les différents points soulevés sont spécifiquement analysés et des solutions sont amenées par ces travaux.
Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Claire Marais-Beuil pour le Rassemblement national.
Tchoum, tchoum, tchoum.
Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. 20h chaque soir, un concert émouvant d'applaudissements en faveur de nos soignants. Ah. 20h, chaque soir, un hommage de la nation à ceux de la première ligne qui, malgré les risques liés à la vague initiale de Covid-19, étaient chaque jour sur le pont pour accompagner les malades.
Les bons souvenirs du Covid.
Auriez-vous déjà oublié ? L'hôpital public souffre. Il souffre du manque de personnel, du manque de soignants, parfois au détriment d'une bureaucratie qui, dans ce domaine également, est bien trop souvent étouffante. Il souffre du manque de matériel et de moyens qui mettent parfois en danger les patients qui se tournent vers lui. Si un seul fait devait être cité pour illustrer la situation dramatique dans laquelle notre hôpital public se trouve, ce serait celui de ce patient, ayant passé 24 heures aux urgences de l'hôpital de Langres, en Haute-Marne, avant d'être déplacé dans le garage de ce même hôpital à défaut de chambres disponibles. Sommes-nous en France ou dans un pays du tiers-monde? Comment acceptez-vous une telle situation? Nous vous alertons depuis des années sur le manque de lits au regard du nombre de patients. Et quelle est la réponse du gouvernement? Toujours davantage de suppression de lits. Une étude de l'ADRES publiée récemment fait état d'une suppression de 43 000 lits d'hospitalisation depuis une dizaine d'années, avec 4 900 lits supprimés pour la seule année 2023. Quand allez-vous cesser cette folie? Nous devons au contraire recruter et former davantage de médecins et d'infirmières. Nous devons leur donner les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission de service public et non se contenter de belles déclarations qui ne sont jamais, jamais suivies d'effets. Face à la crise profonde que traverse l'hôpital public et à travers lui l'ensemble du personnel soignant, il est urgent de réagir. Vous venez d'ailleurs d'annoncer la mise en place de mesures d'efficience à l'hôpital pour un gain de 600 millions. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. Quand allez-vous enfin prendre conscience de cette terrible situation et y apporter des réponses ?
Une question du Rassemblement national sur les services de santé, sur la rémunération des soignants. Puisqu'on parle des bons souvenirs du Covid, je vous rappelle que vos rappels de sub à ma chaîne sont obligatoires.
Madame la Présidente.
Je ne sais pas si vous avez fait vos rappels, mais pensez à le faire. Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé, qui va répondre.
L'hôpital a des difficultés, personne ne va le lier dans certains secteurs, mais je peux dire quand même que nous sommes fiers de nos hôpitaux.
Oui.
Nous sommes fiers des soignants qui y travaillent.
Oui,
nous
oui.
sommes fiers des soins qui sont donnés
oui.
Aux Français dans ces hôpitaux.
Oh, oui, oui, oui.
Si vous êtes hospitalisé, qui que nous soyons ici, avec une maladie quelle qu'elle soit, nous sommes pris en charge, et bien pris en charge. Donc je voudrais quand même que l'on arrête de dire que notre hôpital est à la dérive et ne va pas bien. Mais oui, il y a des difficultés.
Vous quand même, un peu, quand même.
Certains services, les services d'urgence, très simplement parce qu'ils accueillent tous les soins non programmés. Et nous sommes en train de travailler à faire en sorte que les soins non programmés soient dirigés vers d'autres praticiens quand ce ne sont pas des urgences. Oui, il y a des secteurs qui sont en difficulté. La gériatrie, par exemple, parce que nous manquons de gériatres et nous manquons de professionnels, malgré les revalorisations salariales qui ont été faites dans le cadre du Ségur de la santé. Alors oui, il y a des, voilà, il y a des secteurs en difficulté que nous devons accompagner. Mais ce que vous dites sur les lits est vrai, parce que les chiffres de l'adresse sont de bons chiffres et sont vrais. Mais l'interprétation, je n'en fais pas la même, Madame la députée. En 2023, effectivement, 4 900 lits ont disparu, 1,3%. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de soignants. C'est parce qu'en fait, on soigne différemment dans les hôpitaux, puisque nous avons 4,1% de nombre de places qui a augmenté. Donc c'est l'ambulatoire qui maintenant ne se fait plus qu'en chirurgie, mais aussi en médecine, et c'est le déploiement de l'hospitalisation à domicile. Donc, il y a moins
l'ambulatoire, c'est la médecine de jour qui vous permet d'être opéré dans la même journée. En gros, vous n'utilisez pas un lit. Vous êtes pris en charge immédiatement et vous ressortez de l'hôpital après votre opération. C'est ça qu'on appelle la médecine ambulatoire.
Monsieur Jean Moulière pour le groupe Horizon.
Merci Madame la Présidente.
Horizon, ce sont les députés qui sont proches d'Edouard Philippe.
Les feux de la colère.
Le candidat à la présidentielle.
Parmi les revendications de nos agriculteurs, il y en a une essentielle. Pas d'interdiction sans solution. C'est ce que nous défendons avec mes collègues du groupe Horizon et Indépendants pour nos agriculteurs. Malheureusement, aujourd'hui, nos producteurs de chicorée et d'endives, que j'ai pu rencontrer dans le Nord, sont en grande difficulté. Depuis l'interdiction en mai 2024 de la benfluraline au niveau européen, qui permettait de lutter efficacement contre les kénopodes, ils se trouvent dans une incertitude totale, vivant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, sans cela, le coût de la main-d'œuvre exploserait. Nous connaissons les problématiques de recrutement dans le secteur agricole. Nous connaissons les problèmes de rendement liés aux conditions climatiques. Nous connaissons également la fluctuation du coût de l'énergie qui a fortement impacté la filière de l'endive. Nous savons tout cela et nous savons qu'un agriculteur a besoin de voir loin pour faire bien. Alors donnons-leur de l'air et un avenir. Dans ma circonscription à Orchy, avec l'usine Leroux, principal transformateur, nous travaillons à relancer la production de chicorée au niveau local. C'est un produit sain et une excellente alternative au café avec une empreinte carbone bien moindre. Si demain, ces producteurs choisissent de semer une plante plus rentable et offrant davantage de certitude, c'est une filière d'excellence que nous mettrons en péril. Personnellement, je ne souhaite pas que demain ma salade d'endives viennent d'Amérique du Sud et ma chicorée d'Inde. Il en va de notre souveraineté alimentaire. Pour reprendre un slogan que nous connaissons bien, on marche sur la tête. Madame la Ministre, je connais votre engagement sur ce dossier. Face à cette situation alarmante, quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il de prendre pour soutenir les producteurs d'endives et de chicorée?
L'endive et la chicorée et leurs producteurs en France qui sont inquiets, eux aussi, si j'ai bien compris, de la négociation des traités de libre-échange de l'Union européenne, notamment le Mercosur. Une inquiétude forte pour les agriculteurs.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs.
En ce début d'hiver.
Monsieur le député Jean Moulière, vous abordez une question absolument fondamentale, celle des impasses techniques devant lesquelles se trouvent un certain nombre de productions. Aujourd'hui, et je vais vous parler de l'endive et de la chicorée, mais avant, je voudrais dire un mot de la filière noisette.
Ah.
Voilà une magnifique petite filière, performante, avec des centaines de producteurs, pour une production remarquable. Ils sont aujourd'hui menacés de mort parce qu'ils ne peuvent pas traiter leur production. Voilà la situation où nous sommes aujourd'hui.
Parce qu'ils n'ont pas accès aux intrants chimiques.
Cette filière disparaîtra. Nous mangerons des noisettes étrangères traitées avec les produits dont l'absence aura causé leur mort en France. C'est la situation de l'endive et de la chicorée. J'ai reçu les producteurs. Magnifique filière. Aujourd'hui, concernés par l'absence de traitement adapté à leur pérennité. Et voilà une culture, des cultures patrimoniales qui font la fierté de l'agriculture française et qui subissent la même menace. Alors, je les ai reçus personnellement avec mes services. Nous avons, pour l'endive, apporté 2 solutions sur 3. Nous avons demandé une autorisation pour le 3e type de traitement. C'est un peu plus compliqué, malheureusement, pour la chicorée. Aujourd'hui, nous avons fait une demande pour le traitement adapté à cette production et j'espère que nous pourrons bénéficier d'un produit qui s'appelle l'Avadex Factor, dont l'examen de la demande est en cours avec un avis indicatif qui sera rendu pour le 30 novembre. Mais je voudrais vous dire, monsieur le député, que je suis avec la plus grande attention cette question. Certains d'entre vous se sont fait plaisir en votant ici des interdictions dont nous payons aujourd'hui le prix en matière de production. Il faut le dire et il faut le dénoncer.
Merci beaucoup, madame la ministre.
La ministre qui dénonce des votes coupables par le passé qui sont en train de tuer des filières agricoles. S'il y a des tracteurs sur les routes pour protester, c'est à cause
Ma question s'adresse à des écolos. Le Premier ministre habitué des sinistres manœuvres de la Commission européenne qui, avec un indiscutable sens du timing, cherche à vouloir accélérer la signature de l'accord Mercosur au moment où le secteur agricole traverse une crise historique sur fond d'événements climatiques extrêmes ayant sévèrement impacté les récoltes et d'une crise sanitaire sans précédent pour les éleveurs. Car au-delà de l'importation de centaines de milliers de tonnes de viande bovine, de volaille, de miel, de sucre, ne respectant pas nos standards de production, faire entrer ces produits en Europe consiste à assumer l'implication d'une crise sociale et économique pour les producteurs européens, à cautionner le prolongement d'un désastre pour la santé des producteurs du Mercosur et des mangeurs de toute la planète avec l'utilisation de pesticides. Faire entrer ces produits en Europe, obtenu à grand renfort de déforestation du poumon de la planète et d'utilisation massive de pesticides réputés dangereux, consiste à encourager un système agricole mortifère et renoncer à l'espoir de souveraineté alimentaire en assumant l'importation du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité qui en sont les principales menaces. Faire entrer ces produits en Europe, c'est valider la stratégie de spécialisation de zones de la planète qui a pourtant montré toutes ses limites lors de la crise du Covid, d'accidents climatiques majeurs ou encore d'instabilité géopolitique comme l'actuelle guerre en Ukraine, alors que nous devons, au contraire, diversifier nos productions afin de sortir des dépendances alimentaires qui, de surcroît, mettent en concurrence entre eux les paysans du monde entier.
Benoît Biteau, le député écologiste, ancien député européen, spécialiste de questions d'agriculture et de lutte contre le système productiviste. C'est intéressant, c'est presque la réponse à ce que disait la ministre de l'Agriculture juste avant sur la question de faut-il autoriser certains pesticides.
Tout en ayant comme objectif de retrouver notre souveraineté alimentaire.
Ou est-ce qu'on préfère que les agriculteurs mettent la clé sous la porte ? Préférez quoi, vous ? La protection de la biodiversité ou
Merci, madame.
Les agriculteurs qui souffrent et qui n'arrivent pas à bouffer ?
Mesdames et messieurs les députés,
vous avez le choix, hein.
Le député Benoît Biteau, je vous remercie pour votre question.
Non, j'arrête.
C'est avec la véhémence que justifie le sujet que vous avez choisi, celui du Mercosur. Et à votre véhémence, eh bien, nous répondons par la plus grande des déterminations pour combattre ce traité que nous estimons inacceptable dans les conditions dans lesquelles il pourrait être conclu. D'abord, inacceptable parce qu'il est très loin de l'ambition d'une relation forte et équilibrée que nous appellerions de nos voeux avec d'autres pays. Manque d'équilibre également en matière de concessions tarifaires, non conforme aux objectifs sanitaires, climatiques, européens. Vous avez évoqué la déforestation. Vous avez évoqué les effets déstabilisants pour nos propres filières. Et il est vrai que souvent dans ces accords de libre-échange, on l'a dit beaucoup, mais il faut le redire, l'agriculture est une variable d'ajustement et ça, ça n'est pas supportable. Et au sein de l'agriculture, ce sont toujours les mêmes filières qui sont concernées, spécialement les filières de viande, le bœuf, la volaille, parfois l'agneau, et ce sont toujours les mêmes qui souffrent de ces accords de libre-échange. On ne peut pas l'accepter. Donc avec le Premier ministre, nous travaillons d'arrache-pied. D'arrache-pied pour arriver à ramener à notre position d'autres pays. C'est un intense travail diplomatique que nous conduisons, que Monsieur le Premier ministre conduit, que Madame la ministre du Commerce extérieur conduit, que je conduis également, pour ramener à nous, à nos positions, un certain nombre d'États qui aujourd'hui sont dans l'hésitation et que nous avons peut-être amené à s'interroger sur les conséquences qu'aurait un tel accord. Donc, Monsieur le député, soyez assuré de notre parfaite détermination pour empêcher cet accord inacceptable et néfaste véritablement pour notre agriculture.
Personne dans l'hémicycle ni sur les bancs du gouvernement ne défend le Mercosur. Tout le monde s'y oppose. La séance est terminée. On va la débriefer. Une séance qui a été marquée par les questions qui portaient sur l'agriculture en ces temps de mobilisation des agriculteurs de plus en plus dans les territoires. Les députés s'en font l'écho, évidemment, dans l'hémicycle, contre le traité Mercosur et plus globalement pour leur niveau de vie, pour leur capacité à se rémunérer correctement et dignement. On a entendu aussi un certain nombre de questions qui ont été posées sur la question des élus locaux. C'est dû au fait, non seulement qu'il y a des négociations budgétaires actuellement, comme vous le savez, au Sénat. Le Sénat est saisi du budget et puis retournera à l'Assemblée avec un 49-3 dans la foulée, dans les 15 jours qui viennent. Mais c'est surtout le Congrès des maires de France, l'Association des maire de France, l'AMF, l'influente AMF, organise son congrès chaque année dans le mois de novembre. Et c'est en ce moment donc que les maires se réunissent pour discuter de leur situation. Et ça tombe pile poil au moment du budget, au moment où il y a un serrage de ceinture global décidé par le gouvernement pour l'ensemble des acteurs politiques et publics. Et ça tombe également sur le coin de la tronche des élus locaux qui, je vous le rappelle, ont besoin des dotations de l'État pour boucler leur budget. D'où vient le Mercosur si personne n'est pour ? Oh, c'est joli, ça rime. Le Mercosur, c'est une alliance économique de pays d'Amérique latine. Vous avez le Brésil, vous avez l'Argentine, vous avez l'Uruguay, vous avez je ne sais plus qui d'autre. Un certain nombre de pays qui essayent de développer leur économie, notamment dans leurs produits à l'exportation. Le Mercosur exporte notamment des denrées alimentaires. Hein. C'est quand même un gros pays d'agriculture, une grosse zone géographique d'agriculture et d'exportation. Et ils essayent de négocier actuellement avec l'Union européenne. L'Union européenne, comme vous le savez, c'est un des premiers marchés du monde, hein, plusieurs centaines de millions de consommateurs et des entreprises, parfois des entreprises de pointe. Et donc, il y a des négociations de libre-échange. Je te file de l'agriculture, tu m'envoies de la technologie. Voilà, c'est ça la négo qui est en train d'avoir lieu. Le Mercosur a des choses à faire valoir sur le marché et le Mercosur est un marché à l'exportation qui peut beaucoup intéresser des entreprises européennes. Voilà. L'AMF, c'est pas l'autorité des marchés financiers, si aussi, mais je parle pas de celle-là. Et l'UE peut souhaiter sécuriser l'apport de matières premières et de métaux. Ouais, également, tu as raison. Il n'y a pas que des produits alimentaires et agricoles et agriculturels. Non, il y a aussi effectivement des enjeux de sécurisation d'approvisionnement en métaux. C'est le principe de base de négociation entre des États qui se mettent d'accord sur ce qu'on appelle les barrières douanières. Je te baisse les barrières douanières à l'entrée et toi, tu baisses tes barrières douanières à l'entrée. C'est impossible d'être pour le Mercosur, il y a zéro impact positif vraiment. Alors les personnes qui soutiennent le Mercosur sont en désaccord avec toi. Elles estiment que ça a un intérêt, notamment pour les entreprises européennes, d'exporter vers le Mercosur. Et puis ça peut avoir un intérêt aussi effectivement de sécuriser un certain nombre d'approvisionnements pour moins dépendre d'autres zones géographiques. Est-ce qu'on peut mentir frontalement dans l'hémicycle ? Dire je vais faire ça et jamais le faire ? Bah évidemment. C'est pas un délit, hein. Puis surtout, tu peux ne pas pouvoir. Genre Gabriel Attal, il a promis plein de trucs, hein. Mais il y a eu une dissolution, donc bah, il a pas pu les faire. C'est pas vraiment de sa faute, c'est pas un mensonge. Il y a pas un principe de parjure ? Non, ça c'est dans les auditions lorsque tu es auditionné par une commission d'enquête. Là, c'est pas pareil. Là, effectivement, il y a un enjeu de parjure. Mais après, je vous rappelle qu'un mensonge, c'est une question de point de vue. Hein. C'était quand même que Mercosur est tellement pro-allemand, c'est dingue à quel point c'est forcément des choses à leur avantage dans l'UE. À quand une vraie gueulante des Français sur ce sujet ? Eh bien, il faudrait que les Français aient les moyens politiques de gueuler. Hein. Ça a longtemps été un peu compliqué pour des raisons budgétaires, notamment. Tu peux pas parjurer sur le futur. Oui, c'est ça. Non, mais exactement. Je suis résolu à mener une politique en faveur d'eux. Bah on verra. Moi, je pourrais estimer que tu l'as pas fait, mais toi, tu pourrais estimer que tu l'as quand même fait. C'est d'ailleurs ce que vous voyez pendant la séance des questions au gouvernement. Les députés d'opposition reprochent au gouvernement de ne pas faire assez, voire, allons-y, soyons fous, de ne rien faire dans le sens d'eux. Et le ministre, il prend le micro, il fait « Mais en fait, si, je fais plein de trucs. J'agis. » J'agis en tenant compte d'éléments dont vous ne tenez pas compte, mais moi j'en tiens compte, et j'agis, et je fais le maximum de ce que je peux faire, et il faut qu'on continue à avancer, etc. Plus aucun SDF dans la rue. Oui, plus aucun SDF dans la rue. Mon ennemi, c'est la finance. Jamais je ne ferai d'accord avec le Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on a entendu encore comme belle connerie Il y en a eu, hein. Plus de chômage. Oui. La politique de la demande ne provoquera pas d'inflation. Il n'y aura pas d'augmentation des prix avec le programme du NFP, lorsque celui-là sera appliqué. Très bien, on verra, je ne sais pas, on va voir. Alors le ruissellement, vous savez que le ruissellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais le ruissellement, ça n'a jamais été utilisé par Emmanuel Macron. Il n'en a jamais parlé. Et aucun de ses ministres non plus. Dans aucun de ses bouquins, dans aucune de ses interviews, etc. Jamais. Ce sont ses opposants qui ont utilisé le mot ruissellement en disant « c'est ce que vous faites comme politique ». Ce qui n'est pas... Enfin voilà. Mais un élément de langage. Non, mais ça n'a jamais été revendiqué par Emmanuel Macron. Le premier de cordée, non, c'était pas directement le ruissellement. Le premier de cordée, c'était l'explication d'Emmanuel Macron sur la nécessité pour les entrepreneurs de tirer vers le haut les travailleurs qui sont plus bas dans la... Mais ce n'est pas une idée de ruissellement où la richesse ruisselle. Ça, c'est une théorie américaine néoclassique, libérale, etc. Emmanuel Macron ne l'a jamais utilisée. Mais c'est un stigmate qui lui est, euh, c'est un stigmate qui lui est mis par ses opposants. Je ne dis pas qu'ils ont tort de l'utiliser, leurs opposants, de dire « oui, Emmanuel Macron croit dans le ruissellement, etc. » Ils ont pas forcément le droit de le faire. Mais c'est un peu comme quand la droite dit à la gauche « ouais, en fait, ce que vous proposez, c'est le bolchevisme. » Il dit « bah non, en fait, enfin... » Voilà, c'est tout, c'est pareil. Les socialo-communistes... Macron est illibéral comme toute la classe politique française. Ouais, je pense qu'il faut doublement doser là. Macron a dit clairement que favoriser les investisseurs et les plus riches, ça allait favoriser l'emploi. Mais c'est pas le seul, la gauche aussi, elle le dit. Alors pas pour les riches, mais pour les investisseurs. La gauche n'est pas opposée à l'investissement. Hein. Au contraire. Enfin, je veux dire, si vous regardez le programme du NFP, il y a quand même un certain nombre de domaines dans lesquels la gauche dit qu'il faut investir. Et même beaucoup. Énormément même. Macron a déjà parlé du ruissellement en disant qu'il n'y croyait pas. Et ben voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, dans une interview. Je ne sais plus si c'était un 14 juillet, un truc comme ça. Mais oui, Macron avait dit « Mais attendez, moi, le ruissellement, je n'ai jamais cru à ce truc-là. Hein. » Je crois que je me souviens effectivement du moment où Macron, la seule fois de sa vie qu'il a utilisé le mot, c'était pour dire « Mais arrêtez de m'en parler. En fait, je ne suis pas d'accord. Moi, ça ne marche pas, ce truc-là. » Macron croit au ruissellement, mais il ne veut pas l'admettre. D'accord, tu sais mieux que lui ce en quoi il croit, c'est beau. Tu devrais lui envoyer un texto, à mon avis. Parce qu'il n'a pas l'air au courant. C'est un complot. Non, de quoi on a parlé d'autre ? On a parlé de santé, effectivement, parce que l'Assemblée nationale vient de boucler l'examen de son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui, comme le projet de loi de finances, a été renvoyé au Sénat sans modification avec sa version initiale, et reviendra dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui viennent, et continue à se poser la question, d'où le titre de ce stream d'ailleurs, continue à se poser la question de savoir si Michel Barnier sera censuré ou pas. C'est la question. Le concept du premier de cordée ne reprend pas le principe du ruissellement. Non, c'est pas la même chose. Barnier a fait une belle pique à ce sujet au RN. De quoi, sur la santé ? Je pense que le gouvernement passera pas Noël. Ça, on verra. Sur la censure, oui, sur la censure. Oui, t'as raison, effectivement, Michel Barnier, il a dit un truc du genre « Je suis là pour une durée indéterminée, c'est à vous qu'il revient d'en décider ». Je crois qu'il a dit ça. Il a dit ça aux députés. Je vous rappelle que c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je pars quand vous voulez que ça s'arrête. La séance est terminée. Oui, la séance est terminée. Il est vraiment en mode berserk par rapport à d'autres premiers ministres. Il a raison. Ouais, sans doute. Qui sera le premier ministre quand il sera plus là ? Ça, c'est la question. Excellente question, tiens, qui c'est qui va remplacer Michel Barnier, sachant que l'Assemblée nationale n'aura pas changé, hein. Je vous rappelle, hein, 200 députés de gauche, 220 députés du bloc central et alliés avec la droite, et le RN, ils sont combien? 160, 180, je sais plus. Hmm. 140 RN, merci. Méluche, Premier ministre, je pense qu'il aura le record du plus grand nombre de voix de l'histoire de France en faveur d'une motion de censure. On sera sur plus de 500. ça va être spectaculaire. Foutez-moi ce gouvernement corrompu à la poubelle. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que diront la droite lorsqu'ils voteront la censure contre le gouvernement Jean-Luc Mélenchon. Le gouvernement JLM 1, du coup, qui aura été nommé la veille et qui aura probablement pas le temps de changer les draps au ministère. Lucie Castet, alors Lucie Castet, c'est possible, elle a le mérite d'être soutenue par 200 députés de gauche. Le problème, c'est qu'elle a besoin de trouver un minimum 90, 100, ce serait mieux, députés qui acceptent de ne pas la censurer. Alors, où est-ce qu'elle peut aller trouver ces députés-là? Bon, a priori, il n'y a que chez les macronistes qu'elle peut en trouver, des députés...
Séance...
Ah, ta gueule. Non, ta gueule. Où est-ce qu'elle peut trouver des députés qui acceptent de ne pas la censurer et qui ne sont pas de gauche chez les macronistes? Et comment tu fais pour avoir 100 macronistes dans ta poche? Bah, faut que tu fasses un accord de gouvernement, enfin pas forcément un accord, une alliance minimum avec Gabriel Attal. Tout le programme, on a dit. Je suis au regret de vous annoncer que ça n'aura pas lieu. L'alliance LFI Attal, je demande à voir ça de mon vivant. Alors, attention, parce que factuellement et concrètement, ça ne sera pas une alliance de gouvernement entre LFI et Attal. Ce seront juste deux groupes de députés qui, pour des raisons différentes, accepteront de ne pas censurer le gouvernement de Lucie Castet. Charge à Lucie Castet de parvenir à maintenir un équilibre subtil entre les deux pour éviter que l'autre lâche. C'est exactement ce qu'est en train de faire le Michel Barnier entre le RN et les macronistes. Hein. L'équilibre subtil entre les deux qui permet d'éviter qu'il y en ait un des deux qui lâche. Et bah, bon courage, Lucie Castet. Ça peut marcher. Hein. Par contre, il faut être lucide sur le fait que c'est très compliqué pour une Lucie Castet de réussir à faire ça, puisqu'elle aura d'un côté LFI qui dira tout le programme, rien que le programme, et de l'autre côté, les macronistes qui diront pas de hausse d'impôts et maîtrise du déficit. Voilà, ce sont nos deux lignes rouges. Bon courage, Lucie. J'ai hâte de voir son budget à elle. Hein. Elle n'a jamais dit tout le programme rien que le programme. Ah non, pas Lucie Castet. Je parle de Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Lucie Castet, sur le plateau de Backseat, je vous rappelle qu'elle a dit « Je ferai des accords avec le macroniste. Pas de problème. J'irai négocier avec les macronistes. » Tout le programme du NFP repose sur la hausse d'impôts, bonne chance. D'où la nécessité de négocier. D'où la difficulté de négocier. Il va falloir trouver avec les macronistes quel est leur niveau maximal qu'ils acceptent de hausse d'impôts. Il va falloir mettre sous tension aussi, c'est le principe quand tu fais de la politique, de mettre sous tension ton partenaire, en espérant qu'il craque pas. Donc par exemple, je vous donne un exemple, on continue avec Lucie Castet, première ministre, les macronistes disent pas de hausse d'impôts, la France est l'un des pays de l'OCDE avec la plus grosse pression fiscale, pas d'augmentation de la pression fiscale sur les Français, pas de rétablissement de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle, de machin, enfin, pas de rétablissement des trucs qu'on a abolis et tout. Lucie Castet dit ok, très bien. Et là, elle revient avec une proposition d'augmentation de l'imposition sur les plus riches, mais uniquement sur les plus riches. Une sorte de retour de l'ISF, tu vois, mais qui dit pas son nom. Le problème que risquent d'avoir les macronistes, si elle fait ça, c'est que c'est assez populaire comme proposition. Donc, compliqué. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple, par exemple, d'une Lucie Castet qui pourrait tordre le bras des macronistes pour les forcer à accepter des trucs qu'ils veulent pas accepter. Pareil pour la France insoumise, qui sera mise sous pression. Pas forcément d'accepter des trucs qu'ils veulent pas, mais d'être mise sous pression par Lucie Castet, qui dira « Mais de toute façon, vous n'oserez jamais voter une motion de censure déposée par le RN ». On n'imagine pas la France insoumise empêcher un gouvernement de gauche de gouverner ce pays en s'alliant avec le RN pour ça. Ce serait complexe. Après tout ce qui a été dit sur le Front républicain, etc. Donc là, effectivement, dilemme. Dilemme pour les insoumis qui se disent « Merde, fais chier ». Lucie Castet n'est pas assez à gauche, à notre goût, et en même temps, on ne peut pas la censurer. Enfin, on ne peut pas la censurer. Sinon, on est obligé de voter avec le RN. Voire pire, voter pour la motion déposée par le RN. Donc, dilemme aussi. Donc c'est effectivement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour qu'une hypothèse Lucie Castet gouverne, il ne nécessite pas qu'il y ait un accord signé, écrit, de gouvernement entre les macronistes et LFI. Il suffit simplement que LFI et les macronistes, pour des raisons qui les regardent, acceptent de ne pas censurer Lucie Castet. Et là, elle peut gouverner. Suffit entre guillemets. Oui, non, c'est un challenge. C'est un challenge. J'en profite puisque vous êtes nombreux. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain sur la chaîne Twitch d'Arte à partir de 19h, si je dis pas de bêtises, pour l'émission Euroguesseur. C'est une toute nouvelle émission qu'on a complètement écrite, produite par Arte. On va parler d'Europe et je serai sur le plateau avec Mama Paprika et Map Assistant. Map Assistant qui est dans le chat et qui va co-animer avec moi cette émission avec Mama Paprika aussi. Ça aura lieu physiquement à la Gaîté Lyrique. Si vous voulez venir, soyez les bienvenus. La Gaîté Lyrique, c'est à Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en public, c'est gratuit. Inscrivez-vous, il y a Dart qui vous a mis le lien dans le chat. Venez nous voir à la Gaîté Lyrique demain. Passez un moment avec nous. Assistez à cette émission exceptionnelle. Donc voilà. Vous allez voir, il va y avoir du jeu de rôle, il va y avoir du géoguesseur, il va y avoir des interviews, des duplex et tout. Donc voilà. Nickel. Est-ce qu'on pourra faire sans la propagande pro-Union européenne ? Non, on ne pourra pas faire sans la propagande parce que c'est obligatoire, en fait, la propagande. C'est écrit dans les traités européens. Ça s'impose à nous, en fait. On a l'obligation de le faire. On n'aurait pas envie, hein, mais... On ne peut pas. C'est l'article 49.3 du TFUE. Non, c'est obligatoire. C'est dans le contrat. C'est comme le popcorn avant le cinéma, c'est obligatoire. Exactement. T'as pas le choix. C'est comme le fait de s'abonner à ma chaîne Twitch. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une obligation. C'est écrit dans la Constitution. C'est précisé dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'est rappelé dans la Bible. Voilà, il y a les textes. Il y a les textes, faut obéir. Hein. Terrible. Je suis hors la loi, easy. En roue arrière dans la délinquance. C'est les 10 commandements. C'est le 11e commandement. Il flotte ou c'est moi ? Non, non, c'est bon. Alors, pour la suite des festivités, les amis. Flight Simulator est censé sortir à 17h. Et normalement, on va m'envoyer une clé pour que je puisse jouer à Flight Simulator à 17h. Mais je ne l'ai pas encore reçu. Du coup, il faut le temps que je télécharge le jeu sur des serveurs qui, à mon avis, vont être rincés. Et ensuite que je le paramètre et tout pour vérifier tout ça. Je confirme toujours pas de clé. Ouais, t'as vu ? C'est Microsoft, ils savent faire des serveurs, ça va. C'est des jeux qui pèsent lourd. Hein. C'est des jeux qui pèsent lourd. Faut que je vérifie d'ailleurs si j'ai de la place sur mon disque dur, parce qu'on rigole, mais... Putain, j'ai pas de place, hein. J'aime pas ça, faut que je fasse le ménage, sa mère. J'ai seulement 2 téra, j'ai trop de jeux vidéo, moi je peux pas. Je peux pas. Il est pas si lourd le 2024. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Tu l'as téléchargé ? J'ai cru que t'avais 2 téra de libre. Bah non, j'ai 2 téra plein là. Mon disque C, il est saturé sa mère. Et mon disque jeu vidéo, il est... Il me reste 200 gigas. Ça parle de 30 gigas. Ah ouais ? 30 gigas, ça devrait aller. Le problème de Flight Simulator, c'est pas le poids du fichier originel. Hein. Le problème du Flight Simulator, c'est la quantité de merde qu'on lui rajoute par-dessus, sous forme d'add-on, de plugin, etc. C'est le principe de... Vous savez, c'est comme une plante qui pousse. D'ailleurs, c'est tout aussi beau. Un Flight Simulator, ça grossit. Sur ton disque dur, au fur et à mesure du temps. C'est comme un bébé qui apprend à marcher, tu vois. C'est assez émouvant. Moi, je trouve ça très émouvant. Donc, ouais. achète un SSD de 1 Teraoctet juste pour Flight Simulator. Non mais attends, le SSD que j'ai actuellement dans mon ordi, il fait 2 Teraoctets et je l'ai principalement acheté pour Flight Simulator. Hein. C'est juste que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai ce PC. Donc... Non, je vais juste faire le ménage. Hein. Je pense que j'ai des jeux qui prennent trop de place et il faut que je les dégage et c'est tout. Hein. Achète un PC pour Flight Simulator. Parce que tu crois que mon PC, il sert à quoi ? Parce que, on va pas se mentir les enfants, streamer les QAG, ça prend pas de place. Ça demande pas beaucoup de ressources PC. C'est... Ça se fait sur une bécane très faible, hein. C'est vraiment pas compliqué. Mon PC, il sert principalement à Flight Simulator. Hein. Désinstalle le gouvernement. Oh, ça pèse pas lourd. Non, je crois que je vais désinstaller OBS, comme ça je pourrais plus jouer, je pourrais plus streamer. C'est la fin de la politique. C'est la fin du streaming. Bon, on va voir si à 17h je reçois une clé, et puis si vous avez de la chance, d'ici ce soir, je relance une... je relance un stream Flight Simulator si j'ai réussi à le télécharger, qui fonctionne bien, etc. Je vais vérifier tout ça et puis je vous retrouve à ce moment-là. Des bisous, merci d'avoir été là, à tout à l'heure, ciao ciao, bisous.